Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Manon.
Salut.
Tu vas bien?
Ça va et toi?
Bah écoute, ouais, comme je te disais, super belle journée. On est vendredi, le week-end arrive, un petit peu de repos. Je sais pas si toi t'as un week-end chargé, mais moi mon week-end est bien rempli.
Donc, non, moi ça va, ça va être du repos parce que la semaine a été chargée.
Ouais, j'imagine qu'en ce moment là, tu t'entraînes énormément là avec l'approche des grandes échéances.
C'est ça, on est en pleine préparation pour les Jeux Olympiques et du coup ça n'arrête pas.
Ok, ouais, j'imagine. Est-ce que le stress monte? Je me rends pas compte, tu vois, on est quoi, à moins de 100 jours, 80 jours, 90 jours, quelque chose comme ça?
J'avoue que c'est marqué à l'INSEP, tous les jours on peut voir le compteur, j'esquive le compteur. Mais okay. Oui, le stress commence à monter, à se dire est-ce qu'on sera prêt le jour J, quoi.
Ouais, okay. Et tu le sens aussi peut-être dans le groupe, parce que j'ai l'impression que dans l'escrime vous êtes vachement soudés les uns les autres, c'est un sport individuel, mais que l'équipe elle est importante, que la vie du groupe est quelque chose de très très important, notamment parce qu'il y a des compètes par équipe.
C'est ça. Ouais, c'est la beauté de l'escrime, c'est qu'on a le sport individuel et le lendemain la compétition par équipe. Et après, oui, vu qu'on est un collectif qui s'entraîne tout le temps ensemble, 7 jours sur 7, forcément, on crée des liens. Ce qui fait que on est très soudés, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas finalement. On peut se taper dessus le jour de l'individuel, mais quand on est par équipe, on a l'impression qu'on est les meilleurs amis du monde. C'est ça qui est assez beau. Du coup, la tension se fait pas encore trop ressentir. Quand on est que les quatre filles ensemble, on voit qu'on est un peu stressé. Ouais. Quand on parle avec les coachs, il peut y avoir des petites tensions de se dire ça j'arrive pas, ça j'arrive ou quoi. Mais l'équipe des 12 filles va bien.
Ok, bon bah tant mieux, trop bien. Et ouais, c'était avec Enzo Lefort d'ailleurs qui m'avait dit qu'il y avait un bon petit groupe. Et je sais pas si chez toi ou là tu le ressens pareil, mais il me disait qu'il y avait eu beaucoup de transferts de génération. Après c'était l'année un peu noire, c'était à Londres, c'est ça, où il y avait très peu.
J'étais pas encore, mais ouais.
Où c'était un peu le trou et que du coup il y avait un peu un entre-deux de génération, il y avait les très jeunes et les plus âgés, et lui disait en tout cas que ça se passait super bien.
Ouais, nous aussi, moi quand je suis rentrée à l'INSEP, on arrivait à 4 jeunes. Et ouais. Du coup, il y a eu un peu un espèce de trou. Et encore aujourd'hui, on a deux filles plus âgées, les filles qui sont en équipe, qui ont 30 ans. Et après, on est à 26, 25 ans, voire en dessous. Du coup, il y a un creux de génération. Mais vu que ça fait plusieurs années qu'on s'entraîne ensemble, on a réussi à tisser des liens, à partager nos expériences et à apprendre. Nous, on apprend de l'expérience des plus anciennes. Et les plus anciennes apprennent de notre fraîcheur, quoi.
Ok, bon bah on va en reparler. J'ai vraiment envie de creuser un peu ces sujets-là avec toi. Mais comme je te disais, il y a une tradition sur ce podcast et tous les invités y passent. C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Mon premier souvenir de sport, c'est me voir à la récréation à l'école primaire jouer au foot avec les garçons.
C'est vrai.
Voilà, ouais. Okay. C'était mon rendez-vous. Fallait qu'à chaque récré je me dépense et pour me dépenser, j'allais jouer au foot avec les gars.
Ok, d'accord. Ouais. C'était quoi? C'était le fait que t'aies plus de copains, de copains garçons qui fait que tu jouais au foot, ou c'est parce que t'aimais le foot tout simplement?
J'aimais déjà premièrement me dépenser. Ouais. Rester assise dans la classe, ça m'a toujours un peu tué. Fallait que je sorte, que je courte partout. Et j'ai toujours eu beaucoup d'amis garçons.
Tu me dis si tu veux qu'on se lève pendant l'interview. Et
non, là ça va. j'ai toujours eu surtout en primaire, j'étais vraiment copain garçon et fille. J'ai toujours eu les deux. J'ai toujours eu besoin d'avoir des amis mixtes.
Ok, d'accord, ouais. Ok. Et du coup, ouais, pourquoi le football? C'était le sport le plus pratiqué dans la cour de récré, ouais.
Ouais, comme partout, même encore quand on va dans n'importe quel sport là aujourd'hui, quand on voit les personnes s'échauffer en général, dès qu'on dit foot, tout le monde est heureux. À l'école primaire, c'était pareil, c'était le foot. J'aimais bien. Mon père était footeux à la base, donc forcément, j'avais deux trois. J'avais pas des notions parce que j'étais vraiment très mauvaise. mais ouais, le foot, comme pour tout le monde, c'est un peu la base, quoi.
Ouais, ok, d'accord. Et t'as essayé d'en faire en club? Je sais pas, t'avais essayé de
prolonger. Mon père a pas voulu.
C'est vrai?
J'ai voulu essayer.
Pour un papa footeux?
Ouais, il a dit non, je connais le monde et je préfère que tu essayes autre chose.
C'est vrai?
Et puis je crois que j'avais les pieds carrés. C'est ce qu'il m'a dit plus tard.
Ok, d'accord. Mais c'est marrant qu'il dise ça. Moi, j'ai eu un peu la même histoire. J'ai essayé une fois et je suis revenu. J'avais appris plein de gros mots, quoi.
Ah ouais?
Durant le premier entraînement de l'année, je crois que je devais être en CP ou en grande section de maternelle. Et mon père a dit plus jamais, quoi. Donc j'ai été privé de foot. Ok, mais du coup, c'est hyper marrant qu'il t'ait pas laissé. Il t'a guidé vers un autre sport plus jeune?
Il m'a guidé vers le sport. Mes deux parents étaient très sportifs. Du coup, c'était pas la musique. Moi, c'était le sport à la maison. Du coup, tout le temps, je faisais beaucoup de sport. Après, j'ai essayé la danse et le taekwondo pour avoir vraiment deux styles différents quand j'étais jeune.
Ouais.
La danse, dans l'idée, j'aimais bien danser, mais faire tout le temps pareil, apprendre une choré tous les jours, ça me plaisait pas. Fallait que je puisse faire ce que je voulais, quoi. Me dépenser, finalement.
Ouais, ok.
Et le taekwondo, j'aimais bien ça, mais quand on est petit, on peut pas vraiment se taper dessus.
Ouais.
Et l'ambiance du club était pas ce que je préférais. C'était vraiment on vient, on attend que le cours commence, on s'entraîne et on part.
Okay.
Du coup, et moi j'avais besoin de taper, donc le cours en lui-même je l'aimais bien, mais finalement l'ambiance en soi j'aimais pas trop.
Ok, t'avais besoin de taper, pourquoi?
Non, j'ai pas besoin de taper. je suis vraiment pas quelqu'un qui tape sur les gens, mais le côté l'entraînement, non l'entraînement était cool.
Ok, ça marche. Avec le recul, là, t'en as trouvé des choses intéressantes, tu vois, ça reste un sport de duel ou avec très technique, tu vois, où tu dois avoir un rapport au corps et, on va dire, à l'équilibre qui est assez particulier. je sais pas, t'as eu des signes annonciateurs un petit peu de l'escrime ou?
Rien à voir avec l'escrime. Après, il paraît que j'étais pas trop mauvaise pour mon âge quand j'étais petite. Je savais me déplacer quand il fallait. J'étais coordonnée. Le contact me dérangeait pas.
Ouais.
Donc quand je suis allée à l'escrime, finalement, tout a été. C'était un peu dépassé aussi finalement le taekwondo.
Ouais.
Donc quand je suis arrivée à l'escrime, j'étais pas totalement perdue, même si j'en ai fait que un an. Et quand j'ai commencé l'escrime l'année d'après, il y avait pas eu. C'est arrivé assez vite aussi.
Ouais, c'est ça. T'es quand même de profil. Tu fais des pas chassés. T'as un rapport à la distance avec l'adversaire qui est aussi hyper important. Des réflexes aussi, j'imagine.
Des réflexes, ouais. Qui se travaillent aussi et que du coup, j'ai retrouvé à l'escrime.
Ok. Et du coup, comment est-ce que tu te retrouves dans une salle d'escrime? C'est le hasard complet. C'est un peu le
hasard. En fait, c'est une copine. Quand on était petite, à l'école, on était trois filles qui étaient toujours les meilleures amies. Et il y en a une qui faisait de l'escrime, qui nous a dit, venez essayer. Du coup, on a débarqué à trois à l'entraînement, quand j'étais en CE1. Et du coup, là, pour le coup, ambiance du club complètement différente. On arrive, on fait un jeu pour s'échauffer avant de commencer l'échauffement avec le coach et du coup j'ai déjà adoré ça. Après la tenue, je suis un peu tombée amoureuse de la tenue, j'avais l'impression d'être un peu déguisée. Et puis le côté un peu de mettre un masque, quand on est derrière un masque, on peut être entre guillemets qui on veut, ou la petite fille timide que j'étais, elle partait je pense un peu avec le masque.
Ok, c'est marrant, j'avais jamais pensé à ça, le fait que finalement tu peux laisser un peu ton visage transparaître des émotions sans que l'autre le voit.
On nous voit pas, du coup c'est cool.
Ouais, vous voyez pas du tout. Hein,
on peut se voir quand il y a de la lumière qui arrive sur le masque, on voit le visage de la personne, mais quand on est petit, on se rend pas trop compte, quoi. Enfin, il y a une grille, quoi. Okay.
Et maintenant, t'essayes de, je sais pas, en compète, de regarder dans le masque de l'autre, ou peut-être, je sais pas, est-ce que t'essayes de regarder d'autres signes, parce que tu vois, le visage, c'est quand même ce qui laisse transparaître le plus d'émotions.
Ouais.
Donc c'est là, si t'as un masque, tu vois pas trop les émotions de ton adversaire. Pour ça, on vous voit les enlever en poussant des cris de guerre, des cris de déception d'ailleurs des fois, mais vous observez des choses dans le comportement, du coup, vu que vous pouvez plus voir le visage des autres.
On peut le voir. On peut le voir. Il y a des moments où on est trop concentré sur nous pour pouvoir voir l'adversaire. C'est sûrement une erreur même parfois. Mais je me souviens qu'aux Jeux Olympiques en 2016, en demi-finale, je suis sur la numéro 1 mondiale.
Ouais.
Et j'ai vu son visage douter. Et moi, je me suis dit, mais comment ça se fait? Je l'ai jamais vu comme ça. Et j'ai réussi à voir son visage à ce moment-là et à voir qu'elle avait un peu peur, quoi.
Ouais. Et à ce moment-là, tu reprends un peu ça te donne du poil de la bête, quoi.
Ça m'a étonné sur le moment. Parce que normalement, ça devait être l'effet inverse.
Ok. Ok. Et tu disais que t'étais une petite fille timide. Et c'est marrant, c'est pas du tout l'image que j'avais de toi, et même au premier contact. Donc, qu'est-ce qui te fait dire que t'étais timide? Parce que tu vas jouer au foot avec les garçons, tu fais du taekwondo. Il y avait plein de petits signes qui m'auraient fait croire complètement l'inverse. Donc.
Non, au premier abord, j'étais timide.
Ouais.
Je pense que j'avais pas une énorme confiance en moi. Mais après, dès que je me sentais bien avec une personne, la petite fille qui saute de partout, qui rigole fort et qui parle fort, parce que je parlais tout le temps très fort quand j'étais petite, d'ailleurs, il paraît. Je parle trop fort. Elle arrivait vite. Mais au premier abord, j'étais quand même une fille timide. Donc finalement, arriver sur une compétition et voir plein de personnes, ou arriver à l'entraînement et voir plein de personnes que je connais pas, au début ça fait un peu peur. Une fois que je rencontre la personne, ça met pas beaucoup de temps, mais le premier rapport, je suis un peu timide, je suis réservé, quoi.
Okay, ouais.
Je sais pas si c'est timide, mais plutôt réservé.
Mais c'est souvent le cas avec les faux timides ou les timides un peu extravertis. Effectivement, le premier abord est un peu, tu mets un petit peu de temps avant d'être à l'aise, et puis après ça vient plus naturellement.
Ouais,
c'est ceux qui se lâchent le plus des fois.
Ouais, une fois que je suis partie, on peut plus me lâcher.
Bon bah écoute, pourquoi pas, on peut lâcher les chevaux, lâcher tout, hein, si tu veux, mais c'est super intéressant, du coup, cette approche du masque et cette approche du déguisement aussi. Une passion, déguisement, ou je sais pas, j'ai fait pas mal de judo, parce que mon père était judoka, et moi c'était tout l'inverse, quoi. Ça me saoulait de me déshabiller au vestiaire, de mettre le kimono, de mettre la ceinture, ce petit cérémonial et tout, ça me plaisait pas trop. Toi, qu'est-ce que tu trouvais de plaisant justement dans cette idée de mettre un déguisement?
Je sais pas, déjà c'était tout blanc.
Ouais.
Je trouvais ça joli, on s'habille jamais rarement tout en blanc. Puis après, il y avait le déguisement de la tenue, où vraiment on change tout, on passe vraiment j'arrive dans une phase où c'est un nouveau monde, quoi.
Ouais.
Le côté nouveau monde, nouveau déguisement. Puis après, quand on a l'arme dans les mains, je trouvais ça assez cool, quoi.
Il y a un côté très élégant et très noble, je trouve.
Ouais, tout le monde nous dit ça. Tout le monde nous dit l'escrime c'est quand même assez noble. Bah, le côté blanc aussi qui le rappelle. Et ouais, ce qui est bien avec l'escrime, c'est que c'est un sport de combat, mais ça peut être beau aussi à regarder.
Ouais. Non, et puis je trouve qu'il y a un côté très artistique, tu vois, quand on vous voit vous mettre en garde et que ça commence, et tu vois, on voit les positions de la main, les positions du corps, et c'est presque de la danse, quoi, finalement. Donc
Ouais, on fait des cours de danse des fois. Nous, on a depuis combien de temps ? Depuis peut-être 6 ans, on a une prof de danse qui vient nous faire travailler, pas forcément que de la danse, mais le travail au corps humain, pour savoir où comment se comporter, tout ça, et enfin, se connaître, quoi.
Et tu trouves des choses intéressantes ? Toi, tu sens que ça te fait progresser ?
Ouais, parce qu'on apprend à connaître nos corps. Bah, ouais. Par exemple, moi, à chaque fois que je le raconte, ça, avec moi, je sens des choses forcément, mais avec une fille, une coéquipière, quand on s'entraînait, quand on était en compétition, elle tombait tout le temps. Elle tombait souvent sur la piste.
Ok.
Et au bout d'un an ou deux de danse, on arrêtait de la voir tomber. Ce qu'elle avait appris à, ou quand elle tombe, finalement, elle savait comment tomber. Du coup, elle savait comment récupérer son corps, et c'est ça qui nous a fait vraiment remarquer, que c'était intéressant et qu'on apprenait vraiment à gérer notre corps dans l'espace.
Ouais. Ok, ouais. C'est marrant parce que, tu vois, pour moi, ça m'aurait semblé complètement naturel pour une escrimeuse d'avoir un très bon rapport au corps
Des fois, on se tape les pieds, des trucs bizarres. Et puis, sous le stress ou sous la vitesse, des fois, on se fait embarquer. Donc, on gère plus rien, quoi.
Ouais, mais je peux comprendre, c'est clair. Mais c'est vrai. Mais écoute, c'est un bon tips, tu vois. Moi, je sais que j'ai un très mauvais équilibre et que j'ai beaucoup d'efforts à faire sur la coordination. Moi, les sports sur lesquels je m'éclate en ce moment, tu vois, c'est le triathlon. Donc, c'est courir, nager.
Ouais, c'est carré.
Faire du vélo, exactement. C'est carré, c'est répété et il n'y a pas un pas de travers, quoi, tu vois. Et pareil, un peu, je m'éclate aussi beaucoup dans le crossfit en ce moment, et c'est pareil, tu vois, c'est un mouvement, tu le répètes, et il n'y a pas trop de liberté corporelle, quoi, par rapport à un mouvement. Au contraire, c'est plus tu fais le mouvement avec précision, plus c'est
parfait, quoi.
Ouais, exactement, ouais.
Oui, alors que nous, des fois, en position d'escrime, on se retrouve dans des positions, des fois, on voit des photos, on se dit, mais à quel moment j'ai pu me retrouver comme ça, quoi? Et à quel moment je tire debout? Donc, c'est ça qui est intéressant avec la danse, ouais.
Ouais, des fois, on vous voit, vous êtes pointe de pied face à face, à essayer de mettre la main par derrière et tout,
c'est un peu étrange.
Ouais, ok. Mais c'est vachement beau, en tout cas, c'est effectivement à voir. Et, moi, il y avait des questions que je me posais, parce que, du coup, tu fais du sabre, alors j'aimerais bien, parce que je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs qui sont forcément des amoureux du sport, mais qui connaissent pas tous les sports sur le bout des doigts. Donc j'aimerais bien peut-être te l'entendre dire. Mais moi, c'est la question que j'avais, c'était à quel âge on vous fait un petit peu choisir dans le parcours entre justement l'épée, le sabre et le fleuret. Et comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que tu trouves ton arme? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient d'un entraîneur qui te dit, ah, tiens, t'as plutôt cette appétence-là? Comment ça se passe un petit peu tout ça? Et est-ce que tu peux refaire le petit distinguo entre les trois pour les auditeurs qui connaissent pas?
Déjà, je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a des clubs où les gros clubs peuvent présenter plusieurs armes. Donc ça, c'est l'idéal. Donc on commence souvent avec le fleuret. Parce que c'était l'arme déjà de base à l'époque qu'on apprenait pour faire du duel. Après l'arme de duel, après c'était normalement l'épée, et nous le sabre c'est l'arme des chevaliers.
Ouais.
Des cavaliers.
Ok.
Donc dans les gros clubs, on commence par le fleuret en fonction de comment on sent, si on arrive à bien gérer la pointe, si on arrive à bien se déplacer. Soit l'athlète se sent mieux et se dit j'en ai marre de toucher qu'avec la pointe, du coup on lui fait essayer de ça, et là d'un coup il se dit ah, je me sens plus libre. Soit il aime vraiment cette patience, ce piège et cette précision, et du coup soit on le laisse au fleuret, soit on l'emmène à l'épée pour en fonction de ce qu'il préfère, quoi.
Ok.
Mais moi pour le coup, j'ai commencé au sabre et je suis restée au sabre parce que mon club proposait que le sabre. Je crois que j'ai eu de la chance parce que je me serais pas vue faire autre chose. Je pense que j'aurais pu arrêter l'escrime si j'avais fait du fleuret ou de l'épée, parce que dans ma façon d'être, je suis pas assez patiente, je pense, pour avoir pour le fleuret ou l'épée, qui est une arme plus patiente, plus technique pour la touche. Vu que c'est plus difficile de toucher qu'avec la pointe, forcément, mais plus de temps à aller au contact.
Ouais.
C'est plus des pièges pour se dire, ah, j'essaye de le mettre en échec et de toucher, alors que nous, vu que c'est plus facile de toucher, vu que c'est avec tout tranchant et c'est au-dessus de la ceinture, on se rentre dans la tête, dedans, ouais, et on crie, quoi.
C'est plus physique, hein.
C'est différent. Disons que le sabre, en termes de physique, ce serait plus 500 mètres. Le fleuret, ce serait plus un 400 mètres, et l'épée, un 800 000 mètres, quoi.
D'accord.
Ouais, je crois que c'est à peu près ça. J'espère qu'ils vont pas m'engueuler, que j'ai pas dit de conneries, mais bah nous on fait c'est du sprint quoi. On doit aller lentement, c'est un peu la base, mais une fois que ça part, bah il faut être réactif, faut être capable de changer de direction très rapidement.
Ouais, c'est de l'explosivité.
C'est,
quoi.
Et c'est exactement le sable, c'est l'explo.
Ok.
Voilà.
Ouais. Mais ouais, moi je trouve ça hyper, c'est hyper impressionnant ce qu'on voit des fois. C'est vous êtes posé, c'est très calme, on voit que ça se jauge et puis d'un seul coup,
clac,
et ça joue à rien.
C'est
quoi.
Ça que j'aime. Moi, c'est l'explosivité que j'aime. C'est aussi une de mes qualités physiques, donc forcément, c'est pour ça que je m'y retrouve aussi au sabre.
Ouais.
Moi, j'aimerais bien que ça aille tout le temps super vite, quoi. Et quand on me dit ralenti, va doucement, je me dis ah.
Ok, je vois le genre. Et peut-être, c'est peut-être pour bien expliquer aux auditeurs, c'est quoi la différence entre l'épée et le fleuret? Le fleuret, c'est l'épée, enfin c'est l'arme est souple, c'est ça? Elle se
ouais,
tord un peu.
Le fleuret, l'arme est plus légère. En fait, le fleuret c'est un peu le 50-50 des deux armes.
D'accord.
Du sabre et de l'épée. Le fleuret, l'arme est plus fin et plus fine.
Ouais.
Elle se tord du coup beaucoup plus. On touche qu'avec la pointe, le buste, les épaules et le dos.
Ouais.
Et si les deux touchent, en fait, c'est une arme de convention. Donc il y en a qu'un qui pourra avoir le point, celui qui a la priorité, comme au sabre.
Ouais.
Donc c'est l'arbitre qui choisit de dire bon bah c'est toi qui as le point parce que c'est toi qui attaquais, l'autre il défendait, donc c'est lui qui a le point. Alors qu'à l'épée c'est qu'avec la pointe comme au fleuret, mais c'est tout le corps.
C'est tout le corps.
Exactement. Et si les deux allument, les deux ont le point. Et du coup, okay. C'est beaucoup. Il se jauge, ils se tendent beaucoup, beaucoup de pièges.
Ouais.
Du coup, des fois, ils peuvent avancer, s'arrêter, on ne sait pas pourquoi. Alors que nous, ça se fait un peu moins à l'épée au fleuret. Quoi. Okay. Au fleuret au sabre. Pardon, je me mélange.
Ok, ouais. Et donc toi, t'as le droit d'attaquer partout avec
au-dessus de la ceinture.
Et partout au-dessus de la ceinture.
Ouais.
Ok. Ok, ouais, donc t'as pas le droit de faire une touche sur la chaussure comme...
Bon, ça allumera pas et je me ferai toucher, donc ça sert à rien.
Ok, je vois le genre. Ouais, est-ce que tu vois des différences d'appétence physique, tu vois, ou je sais pas, ou dans la morphologie, ou dans la mentalité, il y a des différences un petit peu entre les trois disciplines, ou est-ce que là sur ta personnalité on voit là, on
ouais.
sent que y a besoin d'explosion, un peu de combat et d'affrontement, mais est-ce que il y a d'autres traits de caractère ou d'autres je sais pas traits physiques qui se retrouvent plus sur le sabre que sur les autres?
Alors souvent. Bah, ce qui est beau avec l'escrime, déjà, c'est que, on peut trouver en escrime tous les types de gabarits possibles inimaginables. C'est pas parce qu'on est très très grand ou très très petit qu'on peut pas gagner. Donc ça, c'est déjà beau. Tout le monde peut faire de l'escrime. Donc ça, c'est déjà bien. Après, dans le sabre, ouais, il y a beaucoup d'explosivité, la capacité de changer de direction au niveau des pieds et un peu de coordination quand même. Et les réflexes. Beaucoup de réflexes. Mais ça, c'est dans les trois armes finalement. Donc, explosivité, vitesse et après dans je pense la mentalité et pas avoir peur de prendre des coups.
Ouais.
Parce que on se fait frapper quand même. On se fait littéralement frapper. Enfin, ça fait pas forcément mal tout le temps, mais des fois on prend des coups et arriver à pas se dire faut que je tape plus fort parce qu'à ce moment-là là on va faire une erreur.
OK.
Voilà.
Ok, donc ouais, il faut un espèce de contrôle pour pas réagir au fait que tu puisses te faire mal. Et t'es déjà tombé sur une adversaire qui, ouais, littéralement te faisait mal et qui, je sais pas, ça peut arriver. Moi, j'ai l'impression que vous avez pas mal du tout.
Ah, si, on a mal.
Hormis quelques fois, mais ouais, ça peut faire partie de la stratégie au sabre de faire mal à l'autre.
Normalement, c'est interdit. Ça peut arriver, mais quand l'arbitre voit que le coup est fait pour faire mal, il doit mettre une sanction.
Ok.
Voilà. Après, des fois dans le combat, forcément, il y a des coups qui partent et qui font mal.
Ouais.
Ça, c'est le jeu. Mais après, oui, des fois, il est déjà arrivé qu'une adversaire soit énervée, qu'elle prend trop, elle perd, et elle s'énerve, du coup, elle frappe fort.
Ok.
Du coup, en général, on le voit, on le sent.
Okay.
Donc là, faut rester concentré. Il faut pas essayer forcément de taper plus fort. Il y en a qui ont déjà essayé de faire mal pour, je dirais pas pour blesser forcément, mais c'est ça, pour déconcentrer parce qu'ils perdent ou parce qu'ils sont énervés. Ou des fois, l'arbitre peut énerver et du coup, moi, ça m'arrive des fois, vu que l'arbitre m'énerve ou par une décision, je peux mettre plus d'intensité et taper plus fort. Mais j'ai pas du tout voulu faire mal à la personne. Mais il y a des personnes qui tapent fort tout le temps et qui font mal.
Okay.
Il y en a qui ont l'impression de faire mal mais qui font jamais mal.
Okay.
Et des fois, y a une fille à l'entraînement qui est arrivée cette année. Quand on la regarde tirer, on dirait qu'elle fait pas du tout mal, mais chaque coup fait un peu mal. Donc c'est marrant. Il y a plein de styles. Il y a des filles qui tapent fort parce qu'elles ont plus de force. Il y a des filles qui tapent fort parce que leurs coups font mal. Il y a des filles qui sont très légères et qui se faufilent un peu de partout. Il y a de tout.
Et toi, du coup, dans toutes ces catégories-là?
Un peu les deux. Il y a des moments où je frappe et il y a des moments où, enfin, pas je frappe, j'impacte. Parce que quand je veux frapper, je n'y arrive pas. Quand okay. j'essaye de frapper la fille, on me dit, bah, fais-lui mal. J'ai dit, ouais, je sais même pas comment faire. Alors que des fois, je fais mal. Hein. Des okay. fois, j'impacte, mais dans l'idée, à la base, j'étais plus dans le, j'essaie plus de me faufiler. Mais des fois, j'ai des petits coups secs qui sont pas très agréables. Ou surtout quand on tape les os, en général.
Ouais.
Même okay. si je tape pas fort, on tape au mauvais endroit, quoi.
Ok.
Mais l'escrime ne fait pas tout le temps mal. Hein. Là, j'ai l'impression que
on va faire peur
horrible.
On va faire peur aux parents qui ont des jeunes qui font de l'escrime, mais c'est quand même particulier au sabre, ces contacts-là, parce que j'ai pas l'impression qu'avec un fleuret ou avec
le fleuret, quand ils font mal, en général, c'est par exemple quand ça fouette et qu'ils ont loupé. Nous, on peut fouetter et du coup il y a un relais vert de lame qui frappe, mais c'est pas de chance, on tape le dos, on frappe le dos. Mais le fleuret, je pense, c'est plus quand ils loupent et du coup c'est au lieu que ce soit la pointe qui touche, et c'est la lame qui frappe le camp.
Ouais.
Voilà. Et l'épée, ils font, enfin, c'est marrant parce qu'on peut comparer nos bleus entre l'épée souvent et le sabre. Nous, nos traces, c'est des traits.
Ouais.
Que l'épée, vu qu'ils touchent avec la pointe et que leur lame est très rigide et qu'ils rentrent souvent assez fort, ils ont des bleus ronds. Donc, okay. c'est marrant quand on est petit, on compare un peu.
Ok, ouais. Je vois ça, ouais. Mais c'est hyper marrant. Et il y a différents styles de jeux dans le sabre. Tu vois, j'avais rencontré Hélène Ngom qui m'avait expliqué un peu les différents pays, qu'il y avait différentes écoles et que jouer contre une Allemande ou une Italienne ou une Asiatique, ça allait avoir complètement des jeux différents.
Ouais, ouais.
C'est exactement la même chose dans le sabre.
C'est exactement pareil. On a le côté asiatique qui est très endurant, très, je vais dire rebondi. En fait, ils sautillent beaucoup. Ils sont très, très lax ou très rapides en fonction des différents pays. Après, on a le côté Europe de l'Est, c'est technique au possible. Ils sont très 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 techniques. L'Ukraine, la Hongrie, la Russie, eux, c'est vraiment les plus techniques. Et après, quand on part du côté Amérique, eux, en fait, l'escrime est arrivé un peu plus tard. Du coup, ils ont, comme des Américains, du coup, ils ont fait un peu pareil dans tout le continent. Comment gagner le plus vite possible, quoi? Comment rattraper le retard, comment on fait pour gagner? Et du coup, c'est beaucoup moins carré, c'est pas forcément le plus physique, mais c'est efficace, quoi. Et c'est chiant. C'est un peu du c'est un peu du brouillon, comment on gagne, et c'est comme ça, donc
Et du coup, dans la Team France, c'est quoi l'école du coup du sabre? C'est très technique quand même.
C'est quand même très technique. On n'est pas les plus techniques parce que par rapport à l'Italie ou l'Europe de l'Est, on est moins technique. Mais moi, je trouve qu'il est beau avec la France, c'est qu'on est assez complet. On a du physique, on a de la technique et on a la stratégie.
Ok.
Donc on est un peu, je trouve que nous on est un peu le mix de tout.
Ok.
On est au centre.
On est les meilleurs.
On peut perdre parce qu'on est moins technique ou parce qu'on est moins bon, hein, forcément, mais on est un peu, des fois, vu qu'on veut tout faire, peut-être qu'on fait moins, on fait un peu tout moins bien. Mais quand on est bon, on fait beaucoup de choses mieux, donc on peut gagner là-dessus. Ouais.
Ok. Ok. Bon, mais t'as raison, on est les meilleurs. On va tout gagner.
J'aimerais bien qu'on soit les meilleurs. Mais après, oui, forcément, de chaque pays augmente son niveau, donc ceux qui étaient le plus physiques, ils récupèrent la technique, ceux qui étaient plus techniques, ils récupèrent du physique, et ainsi de suite. Donc finalement, on peut perdre l'avantage sur certaines choses comme ça.
Ouais, tout le monde se tire vers
Se tire bien vers le haut, là. Plus ça va, plus ça, le niveau augmente vraiment.
Ouais, ok. Et, tu vois, moi, j'ai fait beaucoup de tennis, et comme je te disais, il y a un truc qui est hyper important dans le tennis, c'est l'étude de la vidéo, l'étude de l'adversaire.
Mm-hmm.
Alors bon. À un moindre niveau, c'est pas toujours possible, mais tu vois, chez les pros, ils le font énormément, de se renseigner sur les jeux, et puis ils prévoient aussi des tactiques en fonction du type de joueur. Je sais pas, il y a des joueurs qui sont connus pour être des grands statisticiens, donc des grands stratèges, pardon, stratèges, et pour changer complètement leur niveau, leur style de jeu en fonction de quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose, tu vois, que vous faites aussi de votre côté? Est-ce que toi, vous faites un peu de vidéo? Est-ce que tu vas adapter ton style peut-être à certaines nations? T'as parlé des Américaines qui avaient l'air chiantes, comme tu le dis.
C'est plus brouillon, mais c'est efficace.
Ouais.
On fait beaucoup de séances vidéo, mais plus pour nous corriger nous. Donc c'est plus de la correction. Sur ce type de jeu, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais plus dû faire ce type de défense, par exemple. Ou là, c'était trop grand. C'est plus de la correction technique.
Ouais.
On en a encore fait ce matin.
Okay.
Mais après, quand on part sur un match, souvent par équipe, parce qu'on se parle beaucoup quand on est sur les compétitions par équipe. Quand on va avant, quand on sait contre qui on va tirer, si on part par exemple contre la Corée. Et ben on se dit bon bah là on le sait, ça va être beaucoup de patience, ça va être long sur la piste, on va passer beaucoup de temps sur une touche quoi.
Ouais.
Donc va falloir être prête à être patiente. On se le dit avant. Ou quand on sur la Chine, c'est à peu près pareil. Quand on part sur les Russes, et ben on sait que sur certains styles de jeu, on va se dire bon bah sur elle surtout on fait pas ça et sur elle on fait ça. Bon, en fait on a repéré, il y a des styles de jeu de pays. Et après on a repéré bah certaines filles. Bon bah sur elle si on fait ça on est mort quoi. Donc ou attention elle fait bien ça donc tombe pas dans le piège. On se coach un peu avant. Des fois il arrive que même sur une compétition individuelle. Je sais que je vais prendre une fille, je sais qu'il y en a, j'ai du mal, une de mes coéquipières la tire bien et je vais lui demander des conseils. Bon, comment tu fais déjà sur elle, quoi? Okay. Donc, on a des séances vidéo plus pour nous corriger, nous.
Ouais.
Après, des fois, quand on est plusieurs à avoir du mal sur une personne, on dit au coach, bon, bah, regarde, celle-là, comment on fait? Parce qu'il y en a aucune de nous qui arrive. Donc, on peut avoir des séances vidéo à dire, bon, bah, elle a fait plus ça, elle fait plus ça. Là, on est en train de voir pour les jeux à se dire, bon, bah, est-ce qu'on peut pas avoir des fiches techniques sur chaque adversaire pour savoir pas forcément toutes les actions qu'elles font, mais avoir certaines infos, par exemple sur une attaque sur la préparation, où est-ce qu'elle va, et avoir des cibles pour à contrer quoi.
Ouais, des points forts et peut-être des points faibles aussi pour pouvoir regarder tout ça.
Et pour pouvoir les utiliser, ouais.
Mais c'est trop bien, c'est une bonne initiative. Vous avez besoin d'un coup de main? Moi, j'adore faire ce genre de choses. Tu vas faire des petites stratégies, étudier et tout. Bon, après, je suis un amateur complet, donc ça serait peut-être pas très utile, mais hyper intéressant en tout cas comme stratégie de. Puis je vois qu'il y a, on retrouve un peu le côté un peu d'entraide et d'équipe quoi que tu peux.
Ouais, c'est ça. Mais après, ce qui est dur, c'est qu'en fonction de chaque personne et maintenant chaque pays. Bon, en fait, plus ça va, vu que tout le monde se développe beaucoup. Finalement ce côté où chaque pays a son identité, on retrouve dans des équipes des personnes qui ont un jeu complètement différent.
Ouais.
Et du coup, on se dit, bah merde, ça sort d'où ça? Finalement, on a ça chez nous aussi. Dans les pays qui se développent le plus ou qui sont très diversifiés, on retrouve ça. On peut avoir des styles complètement ou des physiques complètement différents. Et là-dessus, on peut pas dire, bon, bah, ce pays, on fait ça, quoi. C'est vraiment, à ce moment, sur celle-là, on fait ça et sur celle-là, faut essayer de faire ça, quoi.
Ouais, t'es obligé de prendre en un par un. Ouais. Ok.
Sur la Corée, souvent, les trois font à peu près la même chose. Elles ont forcément leur petite touche personnelle. Mais le style de jeu est pareil. Sur les côtés asiatiques, finalement, vu que leur pays est moins, il y a moins de gens qui miquent tout ça, on voit que souvent c'est les mêmes types de physique.
Ouais.
Mais les Américains, les pays en Europe, souvent ça bouge pas mal, donc on se dit bon, fais attention parce que lui c'est plus ça, lui l'autre c'est plus comme ça.
Ouais. Mais j'ai un super souvenir avec Enzo Lefort qui m'avait expliqué justement là pour leur titre en équipe qu'ils avaient ciblé un Italien qui pouvait dégoupiller rapidement et du coup voilà leur but du combat c'était de faire dégoupiller ce mec là.
C'est marrant ça.
Et le mec explose quoi complètement quand on regarde la vidéo, il est super en confiance au début et puis petit à petit
il en peut plus quoi.
Ouais, il sort complètement.
On est contre lui quoi.
mais du coup c'est hyper stratégique, c'est hyper intéressant je trouve d'avoir vraiment cette approche parce qu'en plus vous c'est particulier parce que face à une équipe vous allez tirer à peu près contre tout le monde. Enfin non, vous savez
c'est
contre
ça, on tire contre les trois. Ouais. Les trois tirent contre les trois.
Ouais, donc les trois tirent contre les trois et après c'est on compte les points, c'est ça?
Ouais, c'est un match en 45 et c'est des relais de 5 touches.
Ouais, ah oui, voilà, c'est ça, c'est des relais de 5 touches. Et t'arrives forcément au bout à la fin.
Ouais, au sable, oui. Parce qu'il n'y a pas de temps comme au fleuret à l'épée. Vu que c'est un sport qui est très rapide, okay. Et ben on va jusqu'aux 45 touches. Tous les relais se finissent à 5, alors qu'au fleuret à l'épée, s'ils mettent plus de 3 minutes à faire le match... au bout de 3 minutes le temps s'arrête et même s'il y a un partout on doit arrêter là. Et par contre au vu que c'est au deuxième relais, si les deux personnes d'après vont vite, et ils peuvent aller jusqu'à 10. Ils sont pas obligés de mettre que 5 touches maximum, ils peuvent aller jusqu'à 10.
Ah, c'est le dernier relais qui complète, c'est ça?
Ouais, c'est le relais d'après qui complète et au fur et à mesure on va jusqu'à 45.
D'accord, ok. Mais alors du coup si tu fais, attends, j'ai un petit trou mathématique, tu fais 5 points, vous êtes 3 par équipe donc il y a 6 affrontements différents. Comment ça peut arriver?
Non, il y en a 9. Les 3 rencontrent les 3.
Les 3 rencontrent les 3, mais t'as pas un moins 1 dans la formule mathématique? Je sais plus, j'ai un petit trou de mémoire. Non, mais du coup, il y a 9... Il y a 9 relais. Et du coup, t'arrives forcément à 45 à la fin. Ok. Même si t'as 5... Mais du coup, alors, si t'as 5-2, 5-2... Tu fais 5-2 dans un sens, 5-2 dans l'autre...
Ah non, c'est pas comme ça. Par exemple, si je mène 5-2,
ouais.
Et que Cécilia, elle prend le relais à 5-2, elle peut, l'autre, elle peut aller à 10 et Célia peut rester à 5.
Voilà, voilà, ok, c'est ça.
On va à chaque fois jusqu'à 10, à 15, à 20, à 25, jusqu'à 45.
Ouais, donc c'est hyper, hyper
stratégique. Et c'est ça qui est beau. C'est que, bah, il peut y avoir 40, 35, on se dit, bon, elle a plus que 5 touches à mettre, mais finalement, si l'autre met les 10 touches et que, si, et que la française en met que 4, et bah, c'est perdu, quoi.
Ouais.
Et du coup, on arrive à des moments des 44 partout, avec des remontées de dingue. D'ailleurs, pour ça, on a le pro Erwan Lepechou qui est dans l'équipe d'Enzo.
Ouais.
Lui, c'était l'homme qui faisait, qui, c'est l'homme qui fait les remontées. Et on a des fois des matchs spectaculaires, c'est ça qui est beau avec les matchs par équipe.
Ouais, ouais, bah c'est moi, c'est ce qui me plaît beaucoup, quoi. J'adore regarder quand ça passe à la télé, parce que tu sens qu'il y a
il faut arriver un peu à la fin, à la moitié fin, comme ça on voit l'attention. Parce que le début c'est un peu étrange, mais on se dit bon, bah ça va, il y a 5-0, c'est fini. En fait, pas du tout.
Non, mais en plus ouais, non, mais c'est là que aussi toute l'ambiance de l'équipe se met un peu, tu vois. Il y a des équipes qui se révèlent quand elles commencent à perdre, d'autres qui s'écrasent complètement, ouais. Et c'est
on voit un peu de tout.
Ouais. Donc trop cool. Je voulais repartir un petit peu en arrière, tu vois, sur ta carrière, parce que comme je te le disais, j'ai eu l'impression que tu as été repéré hyper jeune, que tu as eu une ascension, on va dire, très rapide, tu vois, alors je sais pas si ça se fait naturellement dans l'escrime de manière générale, mais j'ai eu l'impression que t'as eu plein de titres juniors assez tôt, t'es arrivé à l'INSEP à 17 ans. Comment est-ce qu'on se sent quand on arrive à l'INSEP à 17 ans? Enfin, moi, j'étais complètement immature à 17 ans, quoi. J'aurais jamais, tout le monde serait moqué de moi, quoi. Je savais même pas faire mon lit. Enfin, si, j'abuse un peu, mais.
On a des femmes de ménage à l'INSEP.
Ok, vous êtes vraiment gâtés, quoi.
En fait, avant d'arriver à l'INSEP, déjà, je suis partie de chez mes parents à l'âge de 15 ans pour la seconde, et je suis partie en pôle espoir à Orléans. Moi, je viens de Lyon.
Donc, c'est une structure déjà.
Ouais. Déjà une structure. Une structure où on est au lycée, des horaires un peu aménagés, et on dort à l'internat.
Ok.
Avec des horaires vraiment très carrés. On peut pas rentrer à l'internat dans la journée. C'est vraiment une fois qu'on est sorti. Le matin, on doit être sorti à 8h et le soir, on doit être de retour à 18h. Donc, tout est bien carré. Le plus dur, c'était plus de rentrer à Orléans. Parce que, bah, là, du coup, j'avais 15 ans. Partir loin de chez mes parents, je suis fille unique. Donc, c'était pas évident. Pour mes parents non plus. De laisser partir leur petite fille. Faire 4 heures de train, tous les dimanches et vendredis, c'était pas évident. Mais du coup, pendant 2 ans, je suis partie là-bas. J'ai fait un petit test avec mes parents. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es sûre? Est-ce que tu sais pourquoi tu vas là-bas? Quels sont les pour et les contre? Et ils essayaient de me donner tous les contres possibles pour être sûre que, bah, j'étais vraiment motivée et que je voulais vraiment partir là-bas.
Alors, ils t'ont dit quoi, d'ailleurs, comme contre pour essayer de te retenir?
Bah, 4 heures de train, c'est long. Ça va te fatiguer. Ouais, je m'en fiche. tu vas être loin de tes parents. Peut-être que tu vas pas aller voir tout le week-end. Ouais, c'est pas grave. Je serais peut-être triste des fois, mais ça ira. Eux, ils sauraient me dire, on en a déjà reparlé, mais je sais plus exactement ce qu'ils m'ont dit, mais d'être loin de ma famille, parce que je suis très famille. Donc, forcément, être loin de mes parents, ça va être dur. Peut-être que ça allait mal se passer, peut-être que j'allais perdre, peut-être que les cours allaient pas être au top. Donc, Orléans, c'était plus un premier test de savoir est-ce que déjà j'ai le niveau pour être forte. Parce que je suis rentrée en seconde, mais c'était l'âge finalement pour rentrer à Orléans. Est-ce que j'arrive à lier les deux, le sport et les études, parce que ça c'était forcément très important pour mes parents, ça l'est toujours d'ailleurs, même si maintenant le sport a pris un peu plus de place, mais à l'époque c'était d'abord les études et après le sport, et après arriver à vivre et voir si j'étais épanouie dans l'escrime, quoi.
Ouais.
Donc voilà, pendant 2 ans c'était plutôt ça. Forcément ça m'a plu. quand je rentrais le week-end, c'était plus les moments où je me fais un peu engueuler par mes parents pour me dire pour les moments d'éducation, quoi. On est content de me voir, mais tous les vendredis soirs c'était ça va pas. Le samedi ça se passe bien. Le dimanche on est un peu à cran parce que je repars, quoi.
Ouais.
Donc c'était un peu étrange. Et du coup, quand on m'a proposé d'aller à l'INSEP, du coup j'étais cadette.
Ouais.
En fait, à l'époque, le groupe de seniors chez les filles avait beaucoup blessé, était pas complet. Les niveaux, les résultats n'étaient pas exceptionnels. En 2 minutes, les filles avaient un très très bon niveau, mais cette génération-là, il y en avait beaucoup qui commençaient à partir ou à arrêter leur carrière. Et du coup, il y a eu un espèce de creux où il y avait des filles qui étaient bonnes mais qui perçaient pas forcément, et d'autres qui étaient un peu en train de se dire « est-ce que je vais pas arrêter ?». Du coup, il y avait un espèce d'entre-deux, et ça manquait un peu de résultats. Et du coup, l'année où je suis rentrée, en fait, on est 4 à être rentrées.
Ouais.
4 juniors, donc on était 2 de mon âge, et une fille d'un an de plus que moi et une autre de 2 ans de plus que moi. Et du coup, moi cette année-là, j'étais en équipe cadette junior.
Ouais.
Et ils nous avaient amenés carrément sur des coupes du monde senior, et ce qui n'arrive normalement jamais, quoi.
Ah ouais, carrément. Ouais. OK.
En fait, normalement il y avait la Coupe du monde d'Orléans, où là on a le droit de prendre plus que normalement une Coupe du monde, c'est 12 filles.
Okay.
Et là, on avait le droit de prendre, vu que c'est en France, on a le droit de prendre à peu près 20 à 25 filles. Du coup, j'avais découvert un peu le monde.
Okay. Uniquement j'avais... sur du sabre ou c'est toutes les armes
complètes? Non, que du sabre.
Okay.
Et du coup, j'avais découvert la Coupe du Monde d'Orléans. J'avais gagné le jour des qualifs et du coup, j'étais arrivée dans le tableau principal. Et ce qui était, pour une cadette qui était plutôt bien.
Ouais.
Du coup, l'entraîneur s'est dit, je vais l'envoyer sur une autre compétition. Et finalement, sur une autre compétition, je fais dans les 16 meilleures mondiales. Et je repasse les qualifs, je gagne le premier tour, une fille qui est dans le top 16 mondial. D'ailleurs, je l'ai mise à la retraite, c'est italienne, c'est assez marrant.
Comment ça, tu peux raconter?
En fait, c'était à Moscou, première compétition, du coup, je pars avec toute l'équipe senior. On était du coup deux filles, je crois qu'on était deux filles des nouvelles qui étaient rentrées.
Ok.
On n'était pas encore rentrées, c'était l'année avant que j'entraîne ça. Du coup, on était deux cadettes, parce que la fille avec moi était d'un bon niveau, on part. Moscou, décalage horaire, on se lève à 4 heures du matin pour faire une compétition avec le décalage horaire, c'est très étrange. Et arrivé à la compétition, premier jour des qualifs, tout se passe bien, je passe. Du coup, super quoi. Parce qu'à l'époque, quand on est jeune, enfin même encore aujourd'hui, le premier jour des qualifs, c'est l'enfer quoi.
Tu fais une compétition internationale, c'est incroyable. Ouais.
Voilà, donc c'était un peu impressionnant. Et le lendemain, finalement, j'avais gagné, j'étais passée, mais j'avais pas fait des très bons résultats en poule, du coup, je suis un peu au bas du classement et je prends, du coup, une des meilleures mondiales, qui est dans le top 16, et qui est italienne, et qui allait bientôt arrêter sa carrière, et finalement, je la prends, et je la bats. Et elle est plus revenue sur les compétitions après, donc j'ai été son dernier match international.
Wow.
Donc c'est assez marrant. Sur le moment, j'ai pas vraiment fait attention, mais, c'était assez marrant. Et après, j'ai pris une française qui avait battu une autre française, et je l'ai battue. Parce que moi, finalement, j'avais pas la pression, et au final, je me retrouve encore sur une fille, du coup, du top 16, et là, cette fois, je perds, et j'avais fait un des meilleurs résultats de la journée, quoi. Du coup, ils voulaient me renvoyer sur une autre compétition à la fin d'année. Mon père avait dit non. Du coup, mon entraîneur disait, mais c'est pas possible, on peut pas refuser une sélection. Mon père avait dit, il y a le bac de français. C'est une petite, elle a déjà fait la saison cadette, elle a déjà fait la saison junior.
Ouais.
Elle est fatiguée. Donc, déjà, à l'époque, de faire cadette des juniors, c'était assez impressionnant. Donc, aller aussi en senior, c'était un peu de trop.
Okay.
Et du coup, au final, à la fin de l'année, j'étais remplaçante pour les championnats. Première remplaçante pour être en championnat d'Europe et du monde pour te dire à quel point à l'époque ça manquait, il manquait des filles quoi, il manquait c'est pas forcément du niveau, mais je crois que quand on est arrivé il y avait que 6 filles à l'INSEP parce qu'il y avait des blessés, parce qu'il y avait des filles qui partaient, enfin c'était un peu il y avait un petit creux. Du coup on est rentré à 4, et ce qui fait que j'ai pas été trop j'ai pas eu trop peur quoi, c'était j'étais heureuse d'arriver dans le nouveau. En fait quand on arrive au pôle jeune à Orléans, le but c'est d'arriver à l'INSEP quoi. C'est l'étape quoi, c'est de se dire je veux faire mon sport, je veux devenir professionnel, je veux devenir fort, donc je veux aller à l'INSEP. Donc finalement c'était la première étape c'est fait, maintenant faut devenir vraiment forte.
et c'est un peu la guéguerre non pour passer, ou parce que tu t'es mine de rien, t'es un peu en compétition quand même avec les filles du pôle. Il y a une bonne ambiance quand même malgré cette compétition là.
Vu qu'on est jeune, on fait pas vraiment peur. Vu qu'on est jeune, ils se disent ça arrive. En fait, pendant des années, on voit souvent des jeunes arriver, essayer. Des fois, ça repart, des fois, ça reste. Mais c'est pas parce qu'il y a des jeunes qui arrivent et qui testent des coupes du monde qu'elles vont forcément être fortes, quoi. Donc moi, on se dit elle arrive, elle est mignonne, mais il y en a beaucoup des jeunes qui sont fortes en jeunes et qui gagnent pas, quoi. Mais finalement, sur l'année, j'ai fait mon chemin. Au final, sur l'année qui est arrivée, j'étais junior première année. Et avec les 4 filles avec qui j'étais rentrée, on était toutes les 4 juniors et je suis la seule à avoir réussi à me qualifier en junior pour les championnats. Du coup, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de résultats, mais par équipe. J'ai eu du mal à percer en individuel. J'étais toujours favorite. Je faisais toujours partie des meilleures françaises et j'avais fait des résultats toute l'année, mais j'y arrivais pas à gagner. Donc, frustrant. Et j'ai eu au final mes 2 dernières années juniors. J'ai été 2 fois vice-open du monde de suite en perdant contre une coéquipière. Une française qui était plus jeune que moi pour le coup. Du coup 2 fois en finale et j'ai été championne d'Europe, en junior. Et du coup déjà ces années-là, dès que je suis rentrée à l'INSEP, je suis rentrée en équipe de France senior. Du coup je suis allée chercher une petite place et depuis j'en suis pas ressortie. On a chopé plutôt pas mal de médailles.
Ouais, carrément. Mais c'est marrant parce que quand tu racontes ça, on a l'impression que c'est fluide, c'est normal.
Non, c'était pas fluide.
Tu vois, alors que c'est un parcours, tu vois, c'est un petit peu hors norme. Tiens, on fait une petite coupe du monde, j'arrive en finale. Mais tu réalises tout ça, tu vois, à cet âge-là, ou c'est quoi, c'est l'amour du jeu, puis on réalise, enfin tu réalises pas trop, tu vois. Parce que j'ai l'impression que tu vois, dans les athlètes de haut niveau, il y a un peu deux types de personnalités. Il y a ceux qui comprennent tout de suite que c'est la compétition, que c'est important et qui depuis longtemps on se rêve là. Et puis t'as ceux qui sont peut-être un petit peu plus passionnés, tu vois, qui ont ce côté de l'enfant un peu naïf, tu vois, qui prend tellement de plaisir que il continue, on lui donne une nouvelle compète, il y va et puis la passion crée ça, tu vois. Tu te verrais plutôt dans...
J'ai un peu les deux. D'abord, c'était beaucoup de la passion.
Ouais.
Mais en même temps, il y a le côté duel où j'aime pas perdre, quoi.
Ouais.
Donc j'adore l'escrime et depuis que je suis toute petite, la combinaison, enfin le déguisement, je l'aime toujours autant. Et j'adore m'entraîner. Et ça, franchement, je sais que c'est une chance parce que quand j'entends des sportifs dire, moi, j'aime pas m'entraîner, j'aime pas mon sport, je me dis, mais qu'est-ce que c'est triste.
On
passe tellement d'heures à la salle. Tous les matins, on se lève, on va dans la salle, on va s'entraîner, on va travailler. Et forcément, il y a des entraînements qu'on aime moins que d'autres. Mais si j'aimais pas l'escrime, je pense que j'aurais pas pu être sportif de haut niveau, quoi. Même si j'aime la compétition, même si, enfin, je peux pas. Surtout sur cette année de Covid, quoi. C'est une Covid, on s'entraîne sans compétition, sans but. Moi, j'ai les jeux, mais pendant un an, on ne sait pas si on peut faire des compétitions. Bah, c'est super dur. Et moi, je sais qu'heureusement que je prends du plaisir à l'entraînement parce que c'est ma passion. Donc, ouais, j'ai eu ce côté-là très naïf à me dire, ah super, je vais faire des scrims. Ah super, je vais chez les grands. C'est toujours une mission de plus, quoi. Oh génial, ouais. Je vais découvrir un nouveau truc. Et ouais, je vais pouvoir faire de l'escrime. Oh là là, je vais voir des champions, c'est génial. Ouais. Mais et à côté, quand j'étais sur la piste, même si c'était dur, j'avais pas envie de perdre, quoi.
Ouais.
Donc, on m'a donné la mission, je vais kiffer mon moment, mais je vais aussi essayer de défoncer l'autre, quoi.
mais c'est trop marrant parce que plus on parle, plus je vois la battante, quoi. C'est trop sympa, mais. Et tu vois, la question un petit peu sous-jacente que j'avais derrière ça, c'était aussi, est-ce que ça met pas là un peu la pression, tu vois, d'arriver hyper jeune sur la scène internationale, de tout de suite, tu vois, bon, c'est trop bien parce qu'on te donne ta chance et aujourd'hui, tu vois, t'es dans une équipe et tu fais partie des taulières et je pense de celles qui insufflent à fond l'esprit de la gang, tu vois, et il en faut dans une équipe des gens qui ont l'esprit de la gang. Mais tu vois, en tant que, avec le recul, tu vois, est-ce que toi, t'as eu un peu de pression ou de, comment est-ce que tu le vivais à l'époque, quoi?
C'est plus facile finalement, moi, je trouve. Parce que, quand t'es jeune et que tu rates, on te dit, ouais, c'est pas grave, t'es jeune. Et c'est ce que je suis en train de perdre, en fait. Là, je suis en train de me dire, ah, ça y est, je suis plus jeune. C'est fini, quoi.
Ouais.
Et c'est ça qui me dit, maintenant, j'ai envie de rester jeune pour me dire, ouais, mais si je rate, c'est pas grave, j'ai encore du temps. Mais non, finalement, le temps, c'est cool. Donc, il y a eu le côté.
C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'ai jamais vu ça comme ça, ouais.
Ouais. Non, j'ai toujours été la petite, la jeune qui vient, qui essaie. Donc, si je rate, on me dit, waouh, ouais, c'est trop forte, t'es trop forte. Ouais. Ouais, j'ai tout gagné. Si je perds, ouais, t'inquiète, c'est pas grave, tu dois apprendre. Et comme au jeu à Rio, je suis arrivée, on m'a dit, ouais, la pépite qui arrive, quatrième, on l'avait pas vu venir, elle a 20 ans, Et moi-même, j'énère les gens quand je dis ça, mais moi-même, je m'étais pas vu venir. On m'avait toujours dit, tu peux être forte, t'es forte, il y a des trucs à faire. Et c'est pour ça que t'es en équipe depuis quelques années. Mais je m'étais jamais vu gagner des gros matchs, j'en avais fait quelques-uns dans l'année, mais de là à faire, demi-finale aux Olympiques, je l'espérais au fond de moi, forcément, mais j'y croyais pas forcément.
Tu perds à un point.
Ouais, voilà. Donc, à un point après, j'étais sur la finale, quoi.
Ouais.
Mais du coup, ouais, c'était ce côté-là. Il y a l'innocence. J'arrive, super. C'est pas moi qu'on attend, c'est mes coéquipières qu'on attend. C'est elles qui doivent faire le taf. Donc, forcément, le côté individuel, moi, c'est que du kiff. Je suis stressée, forcément. Plus les années passent, plus je sais que je fais des bons résultats, plus je sais que je dois parfait. Donc, mon stress augmente petit à petit, mais je suis encore jeune. Quand je suis par équipe, c'est différent. Quand je suis par équipe, je me souviens la première année où j'étais en équipe, du coup, au championnat d'Europe. Moi, je suis pas d'Europe, je fais quart de finale alors que je suis toute jeune. Tout le monde me dit, ouais, c'est génial. Et moi, je me dis, ouais, c'est génial. C'était cool. J'ai passé une bonne journée. Je suis arrivée quart de finale. Je pensais pas pouvoir faire ça, mais c'est cool.
Ouais.
Et par équipe, on a fait deuxième. J'ai pas tiré de la journée. Et on m'a félicité à la fin de la journée parce qu'on m'a dit, ouais, t'as été super parce que tous les échauffements, de chaque match, de toute la journée, t'as été à fond et t'as bousculé les autres filles. Je me suis dit, c'est normal, je suis la petite et normalement, je dois pas tirer, mais si je me donne pas à fond pour les motiver pour pouvoir les dépasser, je gagnerai jamais.
Ouais.
Donc, j'avais pas la pression. Forcément, quand je rentre sur la piste, j'ai la pression de me dire, faut pas que je rate parce que je suis la petite et j'ai pas forcément le niveau, donc je dois faire au moins aussi bien que les autres.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mais Mais finalement, j'ai toujours voulu m'entraîner au moins aussi forte qu'elle, être aussi forte que les filles avec qui je m'entraîne, et leur dire, je suis là, je suis jeune, mais vous inquiétez pas, je vais me donner à fond, parce que je sais que c'est pas forcément moi que vous attendez, mais je vais faire tout ce que je peux, quoi. Vous inquiétez pas, je vais être là. C'est un peu ça. J'avais une pression, mais j'avais juste envie de leur dire, je vais me donner à fond pour vous, quoi.
Ouais.
Et c'est ça le côté d'innocence qui est top et qui a pu nous faire à des moments gagner des médailles. Je sais qu'en championnat du monde, du coup, un mois après la fois on est vice-champion d'Europe, mais la première année, on me fait finir alors que sur la Russie, en Russie, les filles, on perd sur elles au championnat d'Europe. Dans l'équipe, il y a deux monstres, celle contre qui j'ai perdu aux Europes, celle contre qui j'ai perdu au monde. On me dit, vas-y, fini. Moi, je suis là, ah! Mais je dois même pas tirer normalement. Et au final, on gagne parce que je suis sur un jour où je vole et on arrive en demi, on fait finale ce jour-là et c'était absolument magique, mais c'était ce côté innocent qui était là et je me suis dit, faut que je me donne à fond parce que je suis avec les filles, faut que je casse la baraque, quoi. Ouais. Et finalement, j'ai envie de dire, mais retrouve ce côté innocent.
Ouais.
Maintenant j'ai le stress de me dire, là je vais arriver au jeu. J'ai plus les yeux émerveillés des Jeux Olympiques d'il y a 5 ans. J'ai envie de me dire, oublie pas que c'est un rêve d'aller au jeu. Parce que c'est ça aussi qui m'a fait faire quatrième. Même si là, ça a l'air un peu moche, mais qui m'a fait faire passer une journée absolument extraordinaire au jeu. Mais là, j'ai plus le stress de me dire, tout le monde me dit, c'est bon, là, t'auras la médaille. Ah, les gars. Déjà, moi, je me fous un stress énorme parce que je sais que je peux l'avoir. Donc, c'est pas sûr, c'est le sport, quoi.
Et vous êtes beaucoup accompagné en préparation mentale parce que ça a l'air très naturel. Enfin, tu l'as dit, t'aimes bien la gagne, t'aimes bien le duel, t'aimes bien te surpasser pour tes coéquipières et tout. Vous êtes accompagné sur de la prépa et vous faites pas mal d'exercices, j'imagine, quand même, sur.
C'est arrivé il y a pas longtemps. Ouais. Notre coach nous a fait rencontrer un coach de vie. Donc c'était pas vraiment préparateur mental, mais moi il m'a beaucoup aidé à me sentir bien dans le groupe, à faire ma place, parce que justement la petite qui rentre et qui prend la place de d'autres filles ou qui est avec des grandes, là je disais, c'est cool, j'ai envie de me donner, mais bon, toute l'année il y a des moments où c'est pas facile, on a envie de me dire, vas-y, c'est bon, t'es petite, reste à ta place, quoi.
Ouais.
En termes d'escrime, je parle, parce que bon, je n'ouvrais pas non plus trop ma bouche, hein. mais du coup il a fallu me sentir bien dans ma peau, me sentir bien dans mon groupe de 12. Ça a pris du temps, donc j'ai eu un coach de vie qui m'a beaucoup aidé, qui m'a fait mûrir aussi, parce que comme t'as dit, 17 ans à INSEP, c'est jeune, même si on était d'autres jeunes. Il y a beaucoup de pièges quand même en INSEP, on se rend pas compte, mais il y a des bars pas loin, il y a c'est Paris, c'est grand. Donc forcément faire des conneries,
t'es avec plein de jeunes,
on a envie de faire la fête, quoi. Voilà, donc il y a quand même énormément de pièges. J'ai eu de la chance, c'est que quand je suis arrivée à l'INSEP, du coup j'étais mineure, donc j'étais au bâtiment mineur, donc forcément j'avais des horaires fixes pour me coucher le soir. Et je devais être à l'école, donc ça aussi c'était un peu fermé, mais quand même il y a quand même pas mal de pièges qu'on peut les prendre. Il y en a beaucoup qui les prennent. J'ai aussi des parents qui
vu que j'habite à Fontenay-sous-Bois, j'allais souvent à Vincennes, tu sais, au drapeau, ou
la tête à l'envers.
Ouais, exactement. Mais du coup, et ça m'est déjà arrivé de voir des...
On en croise des sportifs. Ouais. On peut en croiser tous les soirs et des fois beaucoup de soirs les mêmes. Donc il y a pas mal de risques parce qu'on a besoin de décompresser aussi à des moments, mais des fois
bien sûr.
On décompresse plus qu'autre chose, quoi. Mais du coup, j'ai eu la chance parce qu'en partant à Orléans, j'étais bien cadrée. Je savais ce que c'était de partir loin de la famille. Et comme j'ai dit, tous les week-ends, je rentrais à la maison et mes parents, ils étaient là pour me dire aussi, ça c'est pas bon, ça c'est bon, quoi. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents toujours très présents qui étaient là pour me dire, ils me voyaient pas forcément tout ce que je faisais, mais quand je faisais des conneries, ils le sentaient quand même en général. J'en ai fait forcément, mais j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui me suivaient, qui me soutenaient, qui me disaient, qui m'ont bien. J'ai pas pris trop de conneries et du coup j'ai réussi à rester dans le cadre et à devenir peut-être mature un peu trop vite des fois, mais.
Ok. Et tu fais quoi avec un coach de vie? Ça m'intéresse parce que tu vois là, je suis typiquement à ce moment-là où je me dis, j'ai fait plein de trucs chouettes dans ma vie, mais j'ai besoin de progresser. Tu vois, je suis arrivé à un espèce de plateau où je me dis, j'ai atteint plein d'objectifs, j'ai envie d'en m'en redéfinir des nouveaux, mais je sens que, je sais pas, il me manque, tu vois, une petite étincelle ou un petit coup de pouce. Du coup, je suis en train de regarder justement un peu ce type de personne, un coach de vie. Et concrètement, qu'est-ce que tu fais avec cette personne et
que je dise pas de conneries. Hein.
Non, mais après tu peux, enfin, je sais pas, dire ce que toi t'as appris ou.
Ce que moi j'ai appris, c'était apprendre à qui on est en fait. Enfin, toi du coup maintenant tu sais ce que t'as parcouru et en fait un peu replacer tout ce qu'on a fait et se dire bah voilà, moi je suis cette personne là, est-ce que t'as envie? Et qu'est-ce qu'on fait pour en a pour avoir je suis Manon Brunet, j'ai envie d'être championne d'escrime. Voilà, à l'époque ce qui m'embêtait, c'est que ben j'avais l'impression de me faire un peu écraser des fois la tête, des fois qu'on m'aimait pas ou bah que je prenais trop de place, mais en même temps, je faisais pas exprès, je m'entraînais fort et du coup bah je prenais de la place à des moments et qui gênaient, et du coup comment on fait pour bah prendre les virages et se dire bon bah oui, c'est comme ça. Faut que je, de toute façon, faut que j'accepte cette chose, faut que je me fasse entendre, et ça se fera par quel levier, quoi, par quel levier. Et du coup, bah, ouais, apprendre à s'affirmer. Il m'aidait à me dire, bah voilà, t'es peut-être petite, mais le but c'est de devenir grande. Bah voilà, arrête de te dire maintenant petite parce que tu grandis. Voilà, t'es plus la petite Manon d'il y a 5 ans, 2017. Maintenant, t'as 20 ans, t'as fait les Olympiques. Et en fait, au fur et à mesure, il y a plein de choses qui se passent dans un groupe. Il y a plein de choses. J'ai appris à m'entendre avec d'autres filles, à me faire entre guillemets pas accepter, mais voilà, en fait il y a beaucoup de choses qui ont changé. Avant j'étais la petite qui venait prendre des places. Et avec les jeux, c'est comme si j'avais pris plusieurs années d'un coup. Ouais, comme si okay. Même les filles qui avaient mon âge qui sont entrées peut-être un peu plus tard, bah j'ai marqué même des filles de mon équipe, j'ai marqué une forme de respect ou une forme de bah maintenant voilà, je fais partie de l'équipe et c'est sûr, même si c'est arrivé quand même un peu avant. On a besoin de toi. Finalement, au fur et à mesure des résultats que j'ai pu parcourir et de la place que je prenais dans l'entraînement, qui était due par le coach de vie, à me dire bah c'est pas grave, t'as le droit de t'entraîner, t'as le droit de faire le chemin que t'as envie de faire. Et en fait, va au bout de ton chemin. T'as finalement apprendre à pas avoir les peurs qu'on peut créer à l'entraînement vis-à-vis d'un groupe ou quoi, de pas les reproduire sur la piste en fait. Et ça, okay. Il m'aidait un peu là-dedans. Je sais pas si c'est très clair tout ce que je dis pour.
Si,
la suite,
c'est clair, mais... c'est clair, mais. Peut-être, mais moi je vois très, en tout cas moi je vois très bien. Tu vois, typiquement accepter ton parcours, est, ouais. Accepter qui tu es, te poser la question de ok bah c'est quoi tes forces.
Et où est-ce qu'on veut aller, ouais.
Est-ce qu'il y a des choses que tu peux corriger en utilisant tes forces pour y aller, et puis ce que t'y arrives pas quoi. Et fine, c'est pas pour autant que t'es quelqu'un de pas bien ou mauvais. Voilà. Tu peux faire des grandes choses.
Voilà, apprendre de toutes les choses qu'on a faites. Et après, vu sur le moment présent, ce qu'on fait, et après, on voit ce qui se passe, quoi.
Ouais.
Faire les choses à fond, et après, on analyse.
Ok. Voilà. Et t'as des petits exos, je sais pas, hein, que tu peux partager peut-être aux auditeurs, ou des petits trucs, je sais pas, il y a des petits exos un peu concrets, ou des petites routines que n'importe qui pourrait réutiliser dans
ouais,
son quotidien.
Bah, maintenant, depuis 2010, je vois un préparateur mental.
Ouais.
Vraiment spécialisé dans la préparation mentale. Donc ouais, j'ai plein de.
C'est pas d'ailleurs une femme qui s'appelle Annaëlle Malherbe, je crois.
Non, elle fait avec Enzo.
Ok.
Elle fait avec le Fleuret, avec deux filles de mon équipe.
Ok.
Et moi, j'ai celui des épéistes du coup, celui de Yannick Borel, et qui fait aussi quelques sabreurs et sabreuses.
Ok.
Il s'appelle Stéphane Limousin.
Ok.
Et du coup, bah là en ce moment, j'ai un exercice. C'est chaque matin quand je me lève, je me demande ce que je veux pour moi. Voilà, que par exemple, ce matin, demain matin, tu te lèves et tu dis qu'est-ce que t'as envie pour ta journée.
Ok.
Franchement, c'est pas facile.
Ok. C'est hyper intéressant.
Du coup, bah je lui dis encore hier, je dis bah franchement, je sais même pas ce que je veux. Souvent, bah vu que je sais pas, j'essaie de me fixer un objectif sur mon entraînement. Mais c'est vraiment pas facile, et du coup il m'a donné des autres astuces.
C'est uniquement sur la journée où tu peux dire ce que je veux pour moi, par exemple c'est la médaille d'or.
Ouais, mais c'est trop loin la médaille d'or. Bah oui, ok, je veux la médaille d'or, mais on fait quoi du coup aujourd'hui, je fais quoi demain,
okay,
je fais quoi,
donc
tu vois,
c'est aujourd'hui,
ouais,
qu'est-ce que tu
sur
veux
le moment. En fait, le travail, le préparateur mental, ce qui me dit c'est arriver à être présent. Enfin, arriver à être conscient de ce que t'es en train de vivre au moment présent. Par exemple, là, je suis avec toi, je suis en train de faire un podcast.
Ouais.
Et ben voilà, je suis à fond dans le podcast. Et je pense pas à l'entraînement que je vais avoir cet après-midi, tu vois.
Ouais.
Et quand je suis à l'entraînement, quand je suis en train de tirer, par exemple, un truc débile, je suis en train de faire une touche d'escrime, là, j'ai fini ma touche, et là, je vais faire la suivante. Je vais pas me dire, je vais pas rester sur le passé de ma touche, à me dire, j'ai pris cette touche, ça m'énerve, mettre en garde et là, faire la touche. Parce que là, c'est sûr, je vais rater ma touche. Ou je vais pas me dire, bon bah faut pas que je fasse ça parce que peut-être qu'elle va faire ça, ou j'imagine qu'elle va faire ça, ou peut-être que si je fais ça je vais perdre, c'est raté, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce qu'elle va faire. Donc arriver à faire ce qui se passe sur le moment présent, arriver à être focus sur ce qui se passe maintenant. Et ça c'est super dur. Et du coup, pour apprendre à faire ça, et ben me dire bah qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je me fais comme objectif. Bon bah aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai plein d'entraînement. Bon, c'est quoi la stratégie, parce que je peux pas être à fond. Je peux me donner à fond, mais avec mes capacités d'aujourd'hui.
Ouais.
Le but c'est d'arriver à se donner à fond dans tout ce que je fais avec mes capacités que j'ai sur le moment. Mais pour ça, il faut que j'arrive à me dire, bon, bah voilà, là, je suis sur le podcast, là, je suis concentrée à raconter ma life, quoi.
mais attends, c'est un super bon exercice parce que, effectivement, en plus, vous avez besoin d'être doublement focus, je pense, parce que ça va super vite, il y a les réflexes, il y a votre champ de vision, il est un peu limité, ou il est un peu déformé. Et c'est vraiment point après point, quoi, ça va trop vite.
Ça va trop vite.
15, donc,
mais tout va trop vite, finalement.
Ouais, tout va trop vite. Mais du coup, se poser la question de se dire, ok, comment est-ce que je peux travailler ce focus au quotidien et...
C'est du travail de quotidien que je peux faire. Bah, je suis en train de faire la cuisine, je suis concentrée sur ma cuisine, quoi. Au lieu de penser à ce que je vais faire après, quoi. Voilà.
Ouais. Moi, ça c'est mon problème.
Ouais,
c'est super dur. Moi, je suis toujours avec tu vois, les gens, c'est différent. Tu vois, quand là on échange, effectivement, je pense que c'était mon objectif du jour, tu vois, de faire une super conversation. Mais quand je suis en train de bosser sur un projet, par exemple, je vais tout de suite essayer de prévoir le coup d'après, quoi.
J'en ai pas parlé avec mon préparateur mental, mais je pense qu'il y a des moments, c'est intéressant de faire ça. Mais je pense qu'il y a des moments dans sa vie où faut arriver à se dire, hier on a fait un exercice, il m'a fait prendre ma bouteille d'eau dans la main, il m'a fait dire comment, est-ce que t'arrives à ressentir la fraîcheur de l'eau? J'ai dit ouais. Et il m'a dit, alors imagine ce que ça va faire l'eau quand tu vas la boire. Du coup, j'ai imaginé l'eau passer en moi. J'ai bu la gorgée d'eau et je l'ai imaginé passer en moi. Il m'a dit, bah, la gorgée que tu fais en prendre d'eau, eh ben, elle s'est vraiment éparpillée dans tout ton corps. Elle t'a fait un bien fou. Alors que si t'avais bu peut-être 3 gorgées d'eau, elle va vite, eh ben, ça allait directement dans ta vessie. Donc, c'est un exercice tout bête, mais on pense jamais à savourer un plat ou regarder avant et se dire, ah, bah, il va être bon ce plat. Du coup, elle savourait. Ou, par exemple, hier, Et finalement, je me dis le matin, qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui? Voilà, prendre du plaisir sur ce que je fais, par exemple, sur toutes mes actions de la journée, parce que j'ai plein d'actions différentes. Et le soir, de me dire, bon, bah, vas-y, le check-up, est-ce que j'ai pris du plaisir? Est-ce que c'était une bonne journée? Et bah, ouais, bah, bravo, quoi. J'ai adoré ma journée, je suis fier de moi.
Okay.
Et arriver à se dire des trucs comme ça, bah, en fait, on se rend déjà plus heureux, quoi.
Okay. Et t'as un petit journal, du coup, où tu notes un peu?
J'ai des petits trucs, j'essaye de le noter, je le fais pas assez. Ouais. J'arrive à me le dire le matin.
Ça, c'est puissant.
Mais je suis pas encore à cette étape-là. Je suis encore en apprentissage, quoi. Il m'a dit, c'est un travail qui se fait, mais qui s'apprend tout le temps. Et finalement, c'est le côté du être sur le moment présent. J'ai regardé pendant le confinement le reportage avec je sais pas du tout Tony Parker, Michael Jordan,
ouais.
Et à un moment donné il va pour shooter, il est filmé et le journaliste lui dit t'as pas peur de rater? Il se retourne, il dit bah pourquoi est-ce que je penserais à rater alors que je l'ai même pas encore lancé? Et quand je l'ai entendu, je me suis dit, oh là là, mais lui aussi, c'est pour ça qu'il est champion, il sait déjà tout ce qu'il faut penser. Et finalement, même moi, je me dirais pourquoi je penserais rater la touche alors que je l'ai même pas commencé, mais j'y pense forcément. Et du coup, le travail, c'est de se dire, attends, qu'est-ce que tu vas faire? Et vas-y. Et après, fais-le, soit dans l'action quand il y a l'action, quoi.
Ouais, ouais, mais c'est un des trucs, moi, je m'en souviendrai toujours au tennis, c'était mon entraîneur, il me disait point après point. C'est-à-dire vraiment, tu viens de perdre un point, tu viens de te faire humilier. C'est pas grave. En fait, c'est bon, c'est terminé là.
Il est fini.
Donc maintenant, c'est le nouveau point. Mm. Comment est-ce que tu fais pour le gagner celui-là, tu vois?
Mais c'est super dur.
Ouais, c'est vachement dur.
La frustration qui vient, ou même des fois, on met un super bon point, on reste dessus. Oh, c'est trop cool. Ah bah mince, j'ai pris le point d'après du coup.
Ouais, tu t'en prends deux. Tu vois, et du coup, ça sert à rien.
T'en prends un. Finalement, tu restes énervé. Du coup, t'en prends deux. T'en as pris 3 finalement. Du coup, bah c'est raté.
Ouais, exactement. Mais c'est fou, tu vois. Et sur Michael Jordan, c'est dingue à quel point. Bon, on le voit pas trop avec des préparateurs mentaux et on a l'impression qu'il y en a pas presque.
Bah, peut-être qu'il y en a pas, mais je pense qu'il y en a qui sont innés. Enfin, je sais pas si c'est possible, mais il y a des grands champions, quand on les écoute parler, on revoit les choses que nos préparateurs mentaux nous parlent, ou des fois on se dit, ah, mais ouais, il a raison, et souvent c'est des trucs complètement bêtes, comme se dire, bah, pourquoi je penserais à le rater alors que je l'ai même pas lancé? Oui, c'est débile, mais on pense tous à le rater, quoi. À se dire, faut pas que je le rate. Et c'est ce qui nous fait tout rater. Tous les champions ont des anecdotes comme ça, et soit des fois ça vient d'eux. Et parce que c'est encore plus beau, se dire, putain, le gars était né pour être champion, quoi. Soit, bah, ils l'ont appris, ils l'ont inculqué, ils l'ont travaillé, ce que j'essaie de faire, moi, à se dire, bah oui, c'est du travail, et on se formate, quoi. Parce qu'on peut, c'est ça qu'on se rend pas compte, on peut se formater la tête. Et à se dire, bah, quand on a que des infos négatives qui rentrent, et ben, on peut arriver à les stopper, à se dire, bah, j'ai envie de voir de la pluie, j'ai envie de voir la pluie tomber et me dire que c'est beau, et bah, je peux me le dire, quoi.
Ouais.
Donc c'est ça qui est beau avec le cerveau, c'est que même si des fois on n'est pas bien, on peut changer notre cerveau, on peut changer notre cerveau, la façon dont il réfléchit, on peut le faire devenir positif ou négatif, hein. Mais c'est du travail.
Ouais. Ouais, mais ouais, c'est carrément du travail. C'est pas inné pour la majeure partie des gens. Ce qui est hyper cool, c'est que comme tu l'as dit, avec des exercices de PNL, avec des exercices de comportement, de respiration,
ouais,
de visualisation, tu peux vraiment aller au-delà de ça, quoi.
C'est ça.
Et tu peux casser des routines. Moi, je sais que c'est. Ça m'arrive souvent, tu vois, tu vois, quand je monte une boîte et qu'il y a un truc qui va pas et je vais avoir des pensées négatives et je me dis, putain, peut-être que dans 2 semaines, je pourrais pas payer mes employés. Tu vois, ça m'est déjà arrivé. Déjà, là, le compte en banque, il est vide. Si dans 2 semaines, il n'y a pas d'argent,
c'est mort, quoi.
Je mets 10 personnes dehors et ça fait mal, tu vois.
Ouais.
Et en fait, les trucs dans ces moments-là, moi, je me dis, allez, on t'y pense plus. La situation est comme ça. Et je me répète, t'es le meilleur, tu vas y arriver. Et en fait, franchement, ça a un effet.
Ça change de fou.
Ça a un effet, alors que je pense que, fut un temps, si tu ressasses, tout ce stress, c'est dur, quoi.
Sais que même ma mère l'a fait, ça s'est pas venu de moi, mais du coup, à ce moment-là, je travaillais un truc plus ou moins similaire. Quelqu'un lui avait dit, dès que tu vois un truc qui te plaît, appuie sur un bouton. Et elle avait un petit truc qu'elle devait appuyer. Et du coup, finalement, son cerveau s'est habitué à se dire, ah, ça j'aime bien. Ah, ça c'est joli. Oh, il fait beau. Je suis contente. Ah, il y a une jolie fleur. Ah, je l'aime bien. Et finalement, elle s'est formatée. Et là, il y a des jours où elle peut voir que des trucs tout le temps trop beaux, magnifiques. Et c'est...
Ouais.
On lui dit, et quand elle dit ça à mon père, on peut lui dire, ah, n'importe quoi. Et finalement, faut prendre conscience que le cerveau, on peut le formater, quoi. On peut lui faire ce qu'on veut.
Moi, j'ai un copain, il disait beaucoup d'insultes. Et quelqu'un qui l'a accompagné là-dessus lui a dit, à chaque fois que maintenant tu vas dire un gros mot, il lui a offert un bracelet. Et un bracelet un peu simple, élastique. À chaque fois que tu vas dire un gros mot, tu vas le changer de côté. Et en fait, il s'est mis à conscientiser le nombre de fois par jour où il changeait de main pour le bracelet. Et maintenant, il en dit plus aucune, en fait.
C'est fou, hein. Ouais. On peut tout changer. Mais je sais qu'il y a un sportif, c'est dans l'âme d'Enzo, un fleurettiste. Qui est devenu super fort, numéro 1 mondial. Je sais pas quel âge il a, il doit avoir peut-être 30 ans maintenant, mais ça fait 2 ans qu'il est au top.
Ouais.
Il est numéro 1 mondial. Et lui, à la base, il faisait pas de résultats. Il avait peut-être 5 ou 6 tics, mais comme Nadal.
Ouais.
Il faisait 15 000 trucs, mais entre chaque touche, il avait des trucs. Quand il prenait un point, il avait un autre truc. Et il avait peut-être, il en avait peut-être 5, 6, mais ça le nuisait. C'était mauvais pour lui. Et au final, ils nous ont dit, il a réussi à tout enlever. Il en a 2-3 maintenant. Mais qui sont
ancrages,
c'est des nouveaux trucs qui lui font du bien. Et parce qu'il les a travaillés, et il est numéro 1 mondial, quoi.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça, on peut tout faire.
Ouais, ouais. Mais j'avais entendu aussi parler d'un champion de karaté qui était presque niveau international et qui arrivait pas. Et à l'époque, il y avait un grand champion de karaté. Et faudrait que je retrouve le nom, mais. Et il s'est mis à le copier de A à Z, c'est-à-dire à faire tout exactement comme ce grand champion. Et 3 ans plus tard, il est devenu lui-même champion du monde de karaté, quoi.
C'est dingue, hein.
Ouais, il y a des belles histoires. Et vu tu parlais de Jordan, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, mais t'as vu Rising Phoenix sur
J'ai vu un petit peu. Il y a une escrimeuse dedans.
Ouais, l'escrimeuse italienne et tout. Mais pareil, ça, c'est un documentaire ou un film qui fait relativiser sur la vie.
C'est dingue.
Quand on entend les histoires de Jean-Baptiste Alès.
Pour avancer encore après, quoi. C'est beau. Ouais. On se dit, mais nous, on se prend la tête pour des conneries alors que eux, ils se battent avec ce qu'ils ont, quoi.
Ouais.
Et on se dit, mais nous, quand j'ai mal à la cheville, je me plains, mais tais-toi, quoi. Tais-toi et avance.
Non, mais c'est clair, il y a un peu de ça, ouais.
Hier encore, j'étais, je suis allée dans une école. Ouais. Où j'ai fait essayer l'escrime à des jeunes enfants, dont des enfants handicapés, juste moteurs, du coup, qui étaient en fauteuil ou qui avaient du mal à marcher. Et j'ai pris une gifle, quoi. J'ai fini ça, je me suis dit, mais quel bonheur de pouvoir, de donner des étoiles dans des yeux à des enfants, juste en leur faisant essayer de l'escrime, en étant avec eux. Et ces enfants, ils ont du mal à porter un petit sabre et à y attendre le bras, mais ils le font, quoi. Ouais, je vais essayer quand même, mais c'est cool. Et je vais être au top et je vais essayer de battre mon adversaire, même si j'y arrive pas, quoi. Et je me suis dit, mais allons là toutes les semaines, non, une fois de temps en temps, quoi. Allons leur faire du, faut qu'on aille les voir pour leur donner de l'énergie, leur les faire sourire. Et nous aussi, ça nous apprend tout, quoi.
Ouais. Ouais, puis ça crée des déclics, tu vois, même en fait, tu sais, si tu vois un petit groupe et que tu crées un petit déclic chez un, tu lui changes un peu sa vie.
C'est beau, quoi.
Puis même s'il devient pas escrimeur professionnel, mais qu'il en fait juste pour le plaisir et que ça devient, tu vois, c'est déjà tout gagné, en fait. Bénéf pour les autres, quoi. Mais c'est cool, en tout cas, que tu fasses ça. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est, Enfin, Astrid aussi, elle le faisait beaucoup. Je la vois souvent dans les écoles et tout. Elle a un rapport.
Ouais, elle adore les enfants.
Ouais, ça se voit.
J'ai l'impression.
Mais je sais pas comment je voulais faire une passerelle. Là, on a parlé un petit peu des difficultés et de ce que tu fais un peu à côté de l'escrime. Mais moi, je voulais parler un peu du côté réseaux sociaux parce que je me baladais sur tes réseaux et je me disais ouais, tout était assez. Assez quali, assez fun, assez spontané et tout. Et je me demandais si c'était une des choses sur lesquelles tu passais du temps ou sur lesquelles t'investissais, je sais pas, du temps, de l'énergie, de la formation, j'en sais rien. Mais comment est-ce que tu le vois aujourd'hui? C'est un atout pour une escrimeuse, tu vois, qui...
Ouais, c'est un atout. Déjà, de base, j'aime bien les réseaux sociaux. J'aime bien un peu montrer ma vie, j'avoue. J'aime bien montrer ma passion aussi, surtout. J'aime bien montrer ce que je fais. Parce que je sais que quand je suis arrivée à l'INSEP, il y avait un truc qui m'agaçait un peu. C'était que, on me disait, ouais, mais les escrimeurs, c'est un peu des branleurs, quoi. Ils s'entraînent pas vraiment.
Ah ouais?
C'est pas des grands sportifs.
Mais je crois que j'ai déjà entendu ça.
Ah, ça m'énervait. J'étais là, venez à l'entraînement, on va voir. Venez chez nous et on va voir si on s'entraîne pas, quoi. Okay. Et du coup, ça m'énervait. Et le principe des réseaux sociaux est de montrer mes préparations physiques, de montrer que, je monte pas tous les jours tous mes entraînements. Mmh. Mais, montrer ce que je fais, montrer que, je suis à l'entraînement un dimanche, une fois de temps en temps, et dire ce que je fais et qu'au-delà de ça, au-delà de juste la préparation physique, des entraînements et que j'ai une vie, j'arrive à m'épanouir grâce à l'escrime notamment, ça me fait plaisir. Après, oui, je prends du temps. Il y a des moments où, je fais des posts parce que c'est nécessaire, pas forcément parce que je l'avais voulu. Mmh. J'ai pas de formation. Ouais. Je fais un peu au feeling. Je progresse parce que avant pour avoir une photo, parce que j'aime bien avoir des jolies photos. Forcément, je suis une fille et tout ça. Mais
les hommes aussi adorent avoir des jolies photos.
Oui, c'est vrai. J'aime bien avoir des jolies photos, que le contenu soit assez joli, quoi.
Je me suis déjà pris la tête pendant 15 minutes, je l'avoue, voilà, sur une photo. Tu sais, une fois que tu t'es mis un objectif dans la tête et que tu t'es dit je vais poster ce truc,
On peut devenir un peu croucon, hein. Non, forcément, il y a des fois où quand je demandais
obstiné, faut dire.
Ouais, obstiné. Et du coup, je sais que des fois quand j'étais par exemple chez mes parents et que je voulais montrer ce que j'allais faire, je disais à ma mère prends-moi en photo. Mais moi-même, je suis pas très douée pour être le mannequin. Ma mère, elle est pas forcément la meilleure pour prendre la photo. Du coup, il y a des moments où, avant, je lui mettais du temps, tu vois, à lui dire, essaye de faire comme ça, j'aime pas. Du coup, on passe un peu de temps. Maintenant, j'ai une idée en tête, je me dis, vas-y, fais comme ça, on va faire comme ça et ça va beaucoup plus vite. Donc, des moments, je peux passer 2 minutes à prendre une photo. Je vais pas mentir, hein, j'en prends 50 des photos.
Oui,
mais ça prend 2 minutes, quoi.
Et après,
moi, je fais mon tri de mon côté et je choisis. Mais non, j'aime bien montrer ce que je fais. J'aime bien dire aux gens, tu peux être une fille et vivre de ton sport et t'épanouir dans ton sport.
Ouais.
Et gagner. Et aller à la gagne, quoi.
C'est clair. Il y a quelques sponsors du coup qui suivent et qui peuvent être intéressés justement.
Oui, ça joue aussi, Ouais. On est beaucoup de sportifs à faire aussi ça pour aussi à amener des sponsors parce que je gagne ma vie grâce à l'escrime.
C'est ce qu'ils cherchent maintenant.
Mais je fais ça aussi pour que des sponsors me voient. Je sais que maintenant je suis avec Adidas et j'adore, je suis très heureuse d'être avec Adidas, mais ils m'envoient des habits, il faut aussi que je les monte, quoi.
Ouais, bien sûr.
Voilà, le but c'est que on te donne des habits parce que tu es sportive. Parce que tu gagnes, mais aussi parce que je suis pas une influenceuse, mais parce que t'as une petite notoriété, quoi.
Ouais.
Donc voilà, il y a 2-3 marques des fois qui me demandent pour que je monte leurs produits et qui me les offrent en échange. Donc
ouais. Non, mais ils font briller, ils font vraiment, enfin, tu fais briller leur marque, quoi. Tu vois, t'associes effectivement la gagne avec une belle marque comme Adidas. Mais effectivement, je les aime de plus en plus. Tu vois ce qu'ils font sur leurs différentes strates réseaux sociaux et les athlètes qui suivent. Je trouve que c'est de plus en plus cohérent et
voilà, ils sont dans un délire un peu team olympique, donc c'est cool.
En plus,
on se rend compte de temps en temps, donc ça c'est génial.
Ouais, ils font pas mal. Ils ont beaucoup misé sur le communautaire, tu vois, je trouve, et c'est hyper intéressant. Bon bah trop chouette. J'ai des petites questions de la fin que j'aime bien poser un petit peu. Tu peux y répondre un peu du tac au tac ou creuser un peu si tu veux. Et la toute première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi.
Une bonne journée pour moi, c'est une bonne question. J'ai envie de te dire la journée d'hier. La journée d'hier, c'est pas une journée que je ferai tous les jours parce qu'elle était épuisante et elle prend beaucoup de temps. Hier, j'ai eu le côté associatif, du coup, qui m'a pris une demi-journée qui était, qui était une expérience extraordinaire, du côté humain déjà. Et l'après-midi, j'ai dû faire un condensé de tous mes entraînements que j'aurais dû faire le matin et l'après-midi, mais en une après-midi. Et je suis arrivée à 14h, j'ai eu prépa mentale, j'ai eu une interview à 15h, j'ai eu préparation physique après gainage proprioception, qui m'a pris, je pense, 45 minutes. Après, j'ai eu une leçon avec l'entraîneur. Ça m'a pris 45 minutes encore. Et après j'ai tiré avec un adversaire. Et après, j'ai fait un tout petit peu de déplacement et après une séance kiné. Et j'ai fait ça de 14 à 20h.
Wow.
J'ai pas eu de pause. Mais et j'étais fatiguée en plus dès le matin parce que j'avais dû me lever tôt. J'ai eu une semaine assez chargée. Et je me suis dit, le matin, qu'est-ce que je veux? Je veux réussir à finir cette journée, quoi. Et arriver à combler cette journée. Bon, vu que j'ai eu préparation mentale dans la journée, il a réussi à me blinder sur toute l'après-midi. Et j'ai fini la journée, je me suis dit, putain, je me suis super bien entraînée. Okay. Et j'ai vécu un truc extraordinaire le matin et l'après-midi. J'ai fait 50 000 trucs, mais les 50 000 trucs, j'étais à fond à chaque fois, quoi.
Okay.
Et je suis arrivée, le soir, j'étais encore 20 heures, j'étais là, oh, je suis trop contente! Je suis trop que j'ai passé une journée de ouf. Je suis épuisée, mais je suis tellement contente que je ressens pas encore la fatigue, quoi. On remet pas ça demain, on va faire une journée normale, mais je suis contente quand je fais une journée où, pas forcément une journée où je gagne tout, mais une journée où je sens que, mes entraînements, ils sont de qualité, quoi. Et je sens que je progresse, et je sens que j'étais à fond dedans.
Ok.
Bon, après, là, j'avoue, j'ai l'impression qu'une journée type, c'est journée d'entraînement, mais j'aime bien l'entraînement.
Ok. Mais ça se sent. il faut de la passion, ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir d'athlète?
J'en ai deux. J'ai le souvenir aux Jeux Olympiques où je suis rentrée dans le stade pendant la cérémonie d'ouverture.
Ouais.
Et là, je me suis dit, waouh, j'ai pris une claque. En fait, pendant des heures et des heures, on marche, on attend, on piétine, on attend pour rentrer dans le stade pour la cérémonie. Quand je suis rentrée dans le stade, je suis devenue euphorique. Mais folle, vraiment. Je sautais, je criais de partout, j'étais là. C'est ça, les Jeux Olympiques. Il y avait, c'était immense, c'était, éblouissant. Il y avait du monde, il y avait des lumières, il y avait du feu. C'était, je me suis dit, ça y est, c'est les Jeux, quoi. Et ça, c'était mon moment, c'était un moment fou. J'ai envie de retourner voir la cérémonie d'ouverture là, il y en a bientôt là. Et le deuxième, c'était quand on est championne du monde en 2018 avec les filles.
Ouais.
C'était pas juste après la Coupe du monde de foot où on avait regardé nous la Coupe du monde en Chine avec toute l'équipe de France. On avait fait un espèce de sas dans le hall de l'hôtel à dire on veut regarder la finale. Du coup, on était tous les Français, on devait être 70 Français de l'équipe de France à être tous ensemble regroupés. Quand on a vu que l'équipe de France avait gagné, on s'est dit nous aussi on veut ramener la coupe à la maison. En fait, on avait loupé toutes nos épreuves individuelles. Et quand on a fait l'épreuve par équipe, le premier jour, c'était sur deux jours, le premier jour, j'ai eu une crise d'angoisse tellement j'étais stressée et que j'étais nulle. Et le lendemain, finalement, on finit par être championne du monde. Notre première fois à toutes les trois, à toutes les quatre, on avait la même équipe depuis quelques années. Et là, on gagne. Et j'ai pleuré pendant 30 minutes, je crois. J'ai pleuré. J'étais tellement heureuse, tellement épuisée des deux semaines qu'on avait passées en Chine, trois semaines qu'on avait passées en Chine, je me suis dit ça y est on l'a quoi. Et ça c'était un moment. En plus la finale on a pris les Russes contre qui on perdait quasiment tout le temps et on les a tués quoi. Elles ont pas vécu pendant tout le match. C'était un match parfait, une journée difficile en plus parce qu'on n'a pas fait que des matchs parfaits. Hein. On a tout gagné mais c'était une journée avec des galères. Et on s'est accroché du début jusqu'à la fin et c'était la journée presque une journée parfaite de championnat du monde quoi.
Ok, on voit les petites étoiles moi je vois les petites étoiles dans tes yeux. En fait c'était un gros moment. T'as un petit gris-gris, un petit porte-bonheur pour faire baisser la pression ou pour
non j'ai pas eu le droit.
T'as pas eu le droit?
J'ai pas eu le droit. Mon père avait des gris-gris.
Okay.
Et il a dit je veux pas que ma fille en ait. Du coup dès que j'avais un truc que je refaisais ou que je recommençais ou que je gardais, il me l'enlevait.
Okay.
C'est un truc un peu débile. Les filles ont cru passer un moment que j'en avais. Parce que je crois qu'une fois, je suis arrivée à une compétition, j'avais une nouvelle tenue que j'avais achetée. Et j'ai gagné la compétition. Du coup, elles m'ont dit, ouais, t'as refait pareil. J'ai dit, non, j'aimais juste la tenue. Mais non, j'ai pas de gris-gris, non. J'ai des routines maintenant d'échauffement, tout ça. Parce que je fais avec mon préparateur mental pour occuper mon esprit. Mais j'ai pas de gris-gris.
Okay. Il y a des athlètes qui t'inspirent plus que d'autres.
Ouais, des grands athlètes forcément comme Michael Jordan, tout ça, eux forcément ils m'inspirent parce qu'ils sont impressionnants par leur palmarès tout ça.
Mais tu vois, moi je me dis ils sont tellement surnaturels que
on ne peut pas s'identifier. Ouais. Et non, il y en a une qui est même mon amie aujourd'hui, c'est Clarissa Agbenenou. Ouais. La judokate, qui va bientôt récupérer une 5e étoile, je crois.
Ouais,
je lui souhaite.
Tout ce qu'on lui souhaite.
Non, elle, bah, mis à part le palmarès qu'elle a et la sportive qu'elle est, en fait, c'est même l'être humain qu'elle est. J'ai appris à la rencontrer et, ouais. Et moi, elle m'impressionne. Je lui ai déjà dit une fois, je me suis entraînée et j'en ai chié. Je lui ai dit, mais j'ai pensé à toi parce que je me suis dit, quand je te vois mettre tes vidéos sur les réseaux sociaux et transpirer et souffrir quasiment tous les jours, je me dis, bah, je peux bien le faire une fois de temps en temps, moi. Parce que ouais. Je fais moins de préparation physique en termes de cardio, tout ça. Donc, forcément, c'est ouais. Parce que je fais pas du judo, je fais de l'escrime. Mais quand j'en vois, je me dis, bah, Clarisse, elle en voit tout le temps, donc tu peux le faire. Quand je me dis, j'y arrive pas, je me dis, bah, Clarisse, elle peut y arriver. Ouais. Et cette fille, elle m'impressionne. Si demain j'ai besoin d'un conseil, je peux lui demander. Elle a toujours un truc à m'apprendre, quoi.
C'est une férue de l'entraînement, ouais.
C'est une férue de l'entraînement et c'est sur le, j'allais dire sur la piste, mais sur le tatami. C'est une combattante, hein. Elle, ouais. Et demain, et je retrouve un peu ce truc en elle que j'ai, c'est qu'elle me dit demain, elle rencontre demain on lui dit pour être championne du monde, tu dois battre un homme. Je sais qu'elle va y aller, quoi. Et puis je sais qu'elle va le foutre au tapis. Et je me dis, moi, depuis que je suis toute petite, j'adore m'entraîner avec les garçons. Et encore aujourd'hui, dès que je peux, j'essaie de battre les gars, même si je peux pas physiquement. J'essaye quand même, quoi. Et je me dis, bah.
Pourquoi tu dis que tu peux pas physiquement?
Si le gars est vraiment moins bon en termes d'escrime, je peux le battre. Mais s'il a un bon niveau d'escrime et que c'est un homme, et physiquement, je peux pas le battre.
Mais alors, qu'est-ce qui fait la diff? C'est l'explosivité.
L'explosivité, la force. Il va plus vite, il rentre plus fort. Il voit du coup plus vite les choses. Et tout va trop vite. Et si, okay. S'il est moins bon techniquement ou stratégiquement beaucoup moins bon, je peux l'avoir. Et je peux lui mettre des touches, je peux l'emmerder, mais un gars qui a un bon niveau d'esprit, je peux. Bah mon copain, par exemple, je ne peux pas le battre, c'est impossible.
Ouais.
J'aimerais bien, hein. Mais non.
Ça arrivera un jour, t'inquiète.
J'en bats, ouais. Mais les très bons, je peux pas les battre.
Ok. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans?
Dans 10 ans, j'aurai 35 ans. Je me vois. J'espère déjà que je serai championne olympique déjà. Je me vois avec des petits bébés. Et je sais pas. En fait, dans 10 ans, j'ai du mal à me voir. Je me vois dans 5 ans, avoir 30 ans et être encore sur les pistes et m'entraîner en étant une maman et essayer d'avoir une autre médaille olympique. J'espère.
Bah, c'est possible. Hein. Mélina, elle l'a fait.
Mélina, elle l'a fait. Il y a des escrimeuses qui l'ont fait. Bah,
exactement.
J'ai envie d'être une nouvelle française qui le
fera. Plus en plus, tu vois. Je pense aussi à Cléopâtre Darleux, gardienne de l'équipe de France de hand.
Bien sûr, ouais.
Maternité. 3 mois après, elle est sur le parquet.
Malia,
un an après, boum, vice-championne d'Europe.
Bah, voilà. C'est ça que je veux. Je veux être aussi, je suis une fille qui aime bien montrer que le fait d'avoir été la seule fille à l'entraînement et d'être entraînée avec des garçons, bah ça a pas du tout été un frein. Donc bah j'aime bien dire aux petites filles, vous inquiétez pas, si t'as un rêve, tu peux l'avoir avec n'importe qui, même si c'est qu'avec des garçons. Ouais. Et c'est encore ce qui m'a fait progresser, c'est encore ce qui me fait gagner, je pense aujourd'hui. Mais j'ai envie aussi d'être la fille qui fera des bébés, qui reviendra et qui fera encore des médailles, quoi. Enfin déjà, faut que je fasse les premières, hein. Mais j'ai envie d'être cette partie, montrer que bah c'est pas parce qu'une femme fait un enfant que c'est la fin de sa carrière, quoi, ou c'est la fin de sa vie, quoi. Des fois, on peut entendre des gens dire ça, j'ai envie de dire non, on est bien plus que ça.
non, mais c'est clair. Ça change dans l'organisation, ça change beaucoup de choses, donc ça tourne une page de ta vie, ça c'est sûr. Mais c'est une nouvelle page et faut la réécrire. Je dis ça, j'en ai deux, donc je me sens encore plus vivant et ça me donne de la force, tu vois. Il y a eu pas longtemps, j'ai eu un peu la réflexion et c'est Mélina qui m'en a parlé et j'ai trop ressenti ça. Elle m'a dit, j'avais pas envie que ma fille sente qu'elle était un frein pour ma carrière et du coup j'avais envie de faire encore mieux, tu vois.
Ah, c'est génial. Mais je suis sûr qu'elle a fait encore mieux.
Et bah bien sûr,
ouais,
tu vois,
c'est
évident, elle est tellement déterminée, moi je pense que tout va bien se passer, tu vois. Mais moi cette phrase là elle a trop résonné, quoi. Je me suis dit, j'ai pas envie de faire porter à mon fils le poids de que c'est un frein ou que c'est quoi que ce soit. Et je vais me déchirer pour lui, quoi, pour qu'il se dise, putain, en fait papa est encore plus fort après.
Ouais, j'espère dire ça aussi.
Voilà.
Je peux en sorte.
Si tu pouvais te donner un petit conseil à ton toi-même de 15 ans qui va au pôle pour la première fois, qui prend le train de Lyon à Orléans, qu'est-ce que la petite Manon elle aurait eu besoin de savoir à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te serais dit?
Tu vas faire plein de sacrifices, t'en fais déjà en partant, mais continue, ça va payer.
Ok.
Crois en toi, ça va payer.
Crois
ouais.
en toi.
Ouais.
Ok. Trop chouette. Et la toute dernière question que j'ai, c'est un peu comme un passage de flambeau. C'est un passage de micro.
Ok.
C'est de savoir quelle est la prochaine sportive ou le prochain sportif que tu me recommandes d'aller interviewer sur un format comme celui-ci, un peu libre. On peut parler de tout, de rien, de perf, de prépa.
Bon bah vu que je suis amoureuse, j'aurais bien dit mon copain parce qu'il a une histoire assez incroyable. Enfin incroyable. Ouais. Il a fait les jeux. Il a 35 ans. Il a fait les jeux en 2012. Mmh. Il s'est pas sélectionné en 2016. Et là, il revient et est sectionné en 2020, et je trouve ça beau, et je pense qu'il va continuer jusqu'à Paris 2024. Il est passé de vice-champion d'Europe 2012 à un creux, et là, il revient et numéro 6 mondial. Donc, forcément, lui, je suis un peu fan, donc c'est lui que je te recommanderais, forcément.
D'accord, bah vas-y, carrément.
Mais sinon, un autre sportif, franchement, je sais pas, il y en a tellement et...
T'as mentionné Clarisse tout à l'heure.
Franchement, ouais, moi je te dirais va vers Clarisse. Quoi. Franchement, moi, m'impressionne cette fille. Elle a tellement de choses à donner. Et même là, tu vois, je sais que pour elle, la période est dure et je sais que je la vois travailler. J'ai l'impression plus fort que n'importe qui. Enfin, j'abuse forcément, mais ouais. Je sais que les jeux, elle voulait les avoir l'année dernière, que là tout est chamboulé et que pour une personne comme elle, bah c'est très très dur. Plus dur que pour moi parce que moi je comptais continuer jusqu'à Paris tranquillement sans faire trop de pauses tout ça, mais là elle avait d'autres projets et quoi qu'il arrive ben l'objectif il est là et elle va pas le lâcher quoi, et ouais. C'est ça qui est beau quoi.
Ouais c'est vrai. Et bah écoute, je vais essayer, en plus j'ai très bon contact et tout, ça devait se faire un petit moment, c'est pas fait, mais je vais repartir.
Ouais, va voir des femmes ou mon copain. Voilà ce que je vais te dire.
Ouais, exactement. Ah bah des femmes en ce moment j'en interview plein, donc
c'est bien ça.
Donc voilà, et je donne carrément la parole effectivement sur plein de sujets, donc c'est cool. Merci infiniment. Franchement,
merci,
j'ai passé un bête de moment.
C'est très cool.
On a beaucoup rigolé et tout. On est parti un peu dans tous les sens, mais c'était vraiment génial. Donc, j'espère que toi aussi t'as kiffé.
Ouais, j'ai kiffé de ouf.
Salut.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.